Bonsoir. Oula, je parle fort d'un coup. C'est impressionnant. Merci d'être là pour ce nouveau rendez-vous Pôle Info Santé, donc créé il y a 20 ans. Je vous le dis à chaque fois, mais vous le savez maintenant, le Pôle Info Santé, c'est le fruit du partenariat entre le CHU, dont l'une des missions, c'est l'éducation à la santé, puis l'Espace Mendès France, donc le centre de culture scientifique. Et l'objectif de ce rendez-vous, eh bien, c'est de vous permettre, de permettre au grand public d'échanger, de dialoguer avec des professionnels qui sont là à chaque fois, de santé, du milieu hospitalier, généralistes également. Nos intervenants vont se présenter dans un instant et vont vous proposer, bien sûr, de discuter avec vous sur la thématique de la soirée. Soyez acteur de votre urgence. À la fin des exposés de nos quatre intervenants, vous allez bien sûr, comme à chaque fois, pouvoir poser des questions. Je viendrai avec vous, près de vous, avec les micros. Si vous êtes timide et que vous n'avez pas envie de parler dans le micro, il n'y a aucun souci. Vous avez théoriquement, dans les petits documents que vous avez pu prendre en haut, une feuille blanche où vous pouvez noter vos questions, vous me les donnez, et écrivez lisiblement. Et gros, parce que je vieillis au fur et à mesure des années. Ça fait quand même 20 ans, c'est la centième aujourd'hui. Donc voilà, il faut écrire de plus en plus gros. Donc vous avez aussi entre vos mains un document qu'il faudra remplir. C'est une fiche d'évaluation en quelque sorte. Donc c'est très important pour nous. Ça nous permet de réajuster à chaque fois, de faire de mieux en mieux, on l'espère en tout cas, tout au long de ces années, dans ces pôles info santé. Donc n'hésitez pas à remplir ce document et à nous le remettre à la fin. Nos hôtesses seront là. Je vous demanderai aussi d'éteindre ou de mettre en vibreur vos téléphones portables. Et surtout, quand vous aurez une question à me poser, de bien parler dans le micro. En fait, ce n'est pas pour qu'on s'entende plus que ça. C'est surtout parce que la séance de ce soir, comme tous les pôles info santé, sont enregistrées avec notre technicien qui est juste derrière sa petite vitre, ainsi que les interventions de nos invités. Et tout ce qui va se passer ce soir, vous pourrez le réécouter à la fois sur le site de l'Espace Mendès France et sur le site du CHU. Ce qui fait que si vous avez loupé quelque chose, hop, vous allez sur Internet et vous pourrez réécouter toute la soirée. Je vous présente nos quatre invités de ce soir. Le docteur Jean-Yves Lardeur, médecin urgentiste, urgence adulte au CHU de Poitiers. Merci, bonsoir docteur. Le docteur Amélie Bourreau, également médecin urgentiste, urgence pédiatrique au CHU de Poitiers. Bonsoir. Bonsoir. Le docteur Nadia Hikmi, médecin régulateur urgentiste SAMU CHU. Bonsoir. Bonsoir. Et le docteur Armand Chaudet, médecin généraliste. Bonsoir. Comment identifier une urgence vitale? Quand appeler le 15? Comment être acteur dans une situation d'urgence en attendant l'arrivée des secours? Massage cardiaque, défibrillateur, etc. Comment gérer un accident sur la voie publique ou un accident domestique? Quels sont les gestes de premier secours sur un enfant, par exemple? Quelle est la place du médecin généraliste dans l'urgence? Voilà quelques-unes des questions qui vont trouver réponse ce soir. Je vous souhaite donc la bienvenue à cette centième édition de Pôle Info Santé, ici à l'Espace Mendès France. Je vous souhaite une bonne soirée. On va commencer tout de suite avec le premier intervenant, c'est le docteur Jean-Yves Lardeur. Alors, excusez-nous. C'est la centième, c'est normal. Ça ne peut pas rouler toujours bien. On va juste régler le projecteur. Ah. Donc jusqu'à maintenant, c'était gratuit. La prochaine fois, on vous fait payer parce que ça ne marche plus. Il faut réparer. Ne vous inquiétez pas, ça va fonctionner. Voilà, on a un message qui arrive. Voilà, docteur, on vous laisse la parole.
Très bien, bah écoutez, merci beaucoup. Bonjour. Donc l'urgence, un sujet qui est passionnant et souvent passionné, où tout le monde a son avis sur les urgences, comme on a son avis sur le foot et sur la politique, c'est à peu près la même chose. Pourtant, c'est quelque chose de très important. Alors l'urgence, en fait, c'est quoi ? Tiens, Nadia, je pense que j'ai du mal avec ton... Voilà. Alors l'urgence, c'est déjà, ça va dépendre de qui décrit l'urgence entre les médecins et le public. Parfois, on a des petites différences. Pour nous, les médecins, l'urgence, c'est une pathologie qui met la vie ou la fonction importante, une fonction importante des malades en danger. Donc ça va être l'arrêt cardio-respiratoire, l'accident vasculaire cérébral, le polytraumatisé, etc., etc. Pour le public, c'est probablement complètement différent. C'est une détresse qui requiert une aide et une assistance d'un tiers, voire une solution immédiate à une difficulté passagère. Et ça peut être l'entorse ou la douleur dentaire de 3 heures du matin. Donc voilà, c'est des choses qui sont parfois différentes entre le public et les médecins. Ouais, je pense que... Donc, juste pour en introduction, l'évolution de l'urgence, en effet, aussi bien les appels au SAMU que les consultations au niveau des urgences sont devenues pour beaucoup un recours parce que c'est souvent relativement simple. C'est rapide, même si parfois on y passe des heures, mais on y passe des heures pour avoir une consultation, un bilan sanguin, un scanner, un avis spécialisé qui, des fois, pourrait prendre plusieurs jours, voire semaines. C'est gratuit, entre guillemets, parce que ça a quand même un coût, mais voilà. Et puis, c'est surtout une réponse 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et on voit l'évolution dans nos pratiques en 10 ans, par exemple, le SAMU, qui était prévu initialement pour des urgences médicales particulièrement graves. Ça a été créé devant des accidents, les accidents de la route, en 1970 ou 75, où on avait besoin de médicaliser des accidents graves. Finalement, le SAMU, aujourd'hui, il va assurer plutôt une permanence des soins, une urgence va assurer les urgences sociales, va assurer des demandes de renseignements divers. Et donc, voilà, c'est l'évolution de nos services d'urgence. Et puis également, le service d'accueil des urgences, où on a beaucoup de patients qui sont souvent peu graves, heureusement d'ailleurs, et où, en fait, quand même les trois quarts des patients vont retourner à domicile. Même s'ils ont été traités parfois pour des petites choses. Il y a encore 3 jours, on a eu un patient qui est venu pour un test de paternité. Donc, vous voyez, on a vraiment de tout aux urgences. Et les urgences graves, elles restent minimes et elles restent ces 3% de gens qui vont aller en réanimation. Donc juste en chiffres, en France, c'est 18 millions de passages dans les services d'accueil d'urgence. C'est 20 millions d'appels au centre 15 et c'est 1 million de sorties SMUR, donc où c'est les ambulances médicalisées qui interviennent. Autant les deux premiers chiffres sont en augmentation, on va dire un peu constante, autant le dernier, les interventions SMUR, donc là où on va intervenir sur des patients graves, ça reste relativement stable. Sur Poitiers, c'est un peu plus de 60 000 passages par an. Alors aux urgences, on prend urgence pédiatrique, urgence adulte, les urgences cardiologiques, les urgences ophtalmo, voilà. Quand on regarde sur le service dont je connais, les urgences adultes, c'est aujourd'hui plus de 41 000 passages. Il y a 10 ans, c'était 30 000 passages. Voilà. Au SAMU, on a à peu près 200 000 appels par an. On a 80 000 affaires traitées et 7 000 sorties par an SMUR au niveau de la Vienne. Puisqu'il n'y a pas que Poitiers, il y a également les SMUR de Montmorillon, de Châtellerault et de Loudun. Alors, quand appeler le 15 ? Quand appeler le 15 ? Évidemment, quand il y a en cas d'urgence médicale ou un besoin urgent, d'un conseil médical, on a une réponse médicale 24 heures sur 24. Quand vous êtes face à une personne qui est inconsciente, qui n'ouvre pas les yeux, qui ne répond pas aux ordres simples, il faut appeler le 15. Quand on a quelqu'un qui a des difficultés pour respirer, qui a une respiration qui est rapide, qui a une respiration bruyante, éventuellement accompagnée de sueur, une toux, voire une cyanose, c'est-à-dire une coloration en fait bleue souvent qui va se voir au niveau des mains ou au niveau des lèvres, là c'est pareil, il faut appeler le 15. Évidemment, lorsque vous avez une personne qui ne respire plus, là également, il faut appeler le 15 et on vous expliquera comment faire pour venir à son aide. Quand vous avez, c'est pareil, un saignement important, il faut appeler le 15. Là aussi, on vous aidera à faire les premiers gestes. Devant un brûlé, pareil, n'hésitez pas à contacter le 15. Et enfin, devant une douleur thoracique, il faut également faire le 15 pour pouvoir bénéficier de gestes importants, de gestes immédiats. Et puis, quand on ne sait pas et qu'on hésite à venir aux urgences, ben, le plus simple, c'est de passer d'appeler le 15. Et là, on vous dira s'il y a vraiment besoin de venir aux urgences ou si ça peut éventuellement attendre le lendemain de voir votre médecin généraliste. Alors, pour vous dire l'importance d'appeler le centre 15, on va prendre l'exemple de la cardiologie et des douleurs thoraciques. Sur les douleurs thoraciques, c'est un gros nombre d'appels au centre 15 et le diagnostic n'est pas toujours facile puisque, évidemment, à chaque fois qu'on a une douleur thoracique, nous, on va plutôt penser à un problème cardiaque au téléphone et en fait 60% des diagnostics invoqués au téléphone vont être faux. Mais nous, notre objectif, c'est de traiter, on craint forcément l'infarctus et de vouloir le traiter rapidement dans les 2 heures qui suivent en fait la survenue de douleur thoracique. Donc en gros, une douleur thoracique égale pratiquement un SMUR à chaque fois. Ça paraît énorme. On va sûrement aller sur beaucoup de douleurs thoraciques qui vont pas être des infarctus, heureusement. Mais ça en vaut le coup, puisque 72% des malades qui ont appelé eux-mêmes le 15 pour douleurs thoraciques et ont pu être traités en moins de 2 heures. Donc, une meilleure chance de récupération. Malheureusement, tous ces patients ne représente que 42% des patients qui auraient pu bénéficier d'un traitement, une thrombolyse, une coronarographie, donc un traitement efficace. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'éducation et de choses à faire pour que les gens fassent le bon geste et appellent le bon service pour pouvoir être soignés correctement. Donc en fait, cette diapositive va résumer tout à fait les choses, c'est-à-dire dès lors que on a une forte douleur dans la poitrine, c'est peut-être un infarctus, il y a peu de chance, mais ça peut, alors il faut vite appeler le 15. Autre situation où là aussi on peut être acteur et être, on va dire, le premier urgentiste, c'est dans un accident de la route. Donc il y a 3 choses à faire. Dans un premier temps, c'est protéger, alerter, secourir. Lorsqu'on est témoin d'un accident, on va essayer, la première chose qu'on va faire, c'est éviter le suraccident en mettant les feux de détresse, en mettant les témoins ou les autres personnes, des enfants éventuellement à l'abri, et en faisant un balisage. Donc on va demander aux gens de se mettre 200 mètres avant et après l'accident, de façon à faire ralentir les véhicules et à vraiment protéger et alerter les voitures qui arrivent. Ensuite, alerter. Alors là, c'est pareil, on s'en fiche un peu du numéro de téléphone, ça peut être le 18, le 112, le 15. De toute façon, tous ces numéros sont en interconnexion et quel que soit le numéro dans la panique, on aura la bonne information et on aura de toute façon les bons secours. Par contre, ce qui est important, c'est vraiment d'être très précis dans la localisation, parce que ça, c'est le plus difficile. Donc, il faut essayer d'écouter et de répondre aux questions de façon à ce qu'on arrive à bien localiser l'accident. Et puis, une fois qu'on a fait ces deux choses-là, on va pouvoir enfin secourir. Alors, secourir, c'est bon, éviter évidemment de déplacer les gens, les blessés, sauf s'il y a des dangers, par exemple, s'il y a une voiture qui peut être en feu. Lorsqu'il y a des saignements importants, on va aussi, le témoin va essayer d'arrêter ces saignements, en tout cas les diminuer en faisant une compression au niveau des plaies. Il va également, on va libérer les voies aériennes si jamais on a besoin de, s'il y a une gêne respiratoire. Donc il suffit juste de tirer en avant la mandibule de façon à éviter que la langue chute en arrière. Et puis, si on est face à un arrêt cardio-respiratoire, éventuellement débuter un massage cardiaque. Donc, dans les accidents de la route, pour être acteur de son urgence, de l'urgence, il faut évidemment donner les bonnes informations pour permettre l'intervention rapide des bons secours, les pompiers, plus ou moins le 15. Stabilisation de la vie jusqu'à l'arrivée des secours, donc c'est secourir le blessé. Et puis, une fois, lorsque l'on a eu les secours en ligne initialement, ça permet d'anticiper un certain nombre de choses pour nous, de prendre en charge la prise en charge de la victime et puis d'optimiser en fait les filières de soins. Et on sait que lorsque on a un accident grave et que l'on est bien renseigné, nous on va déjà anticiper. Par exemple, on a un hélicoptère et on va pas forcément le déclencher sur autre chose que lorsque l'on sait qu'on a potentiellement un blessé grave à aller chercher sur un accident de la route. Donc je vais laisser mes collègues faire la suite des interventions, donc sur l'arrêt cardio-respiratoire, sur les premiers gestes de l'enfant, et puis surtout utiliser les bons acteurs de l'urgence. Il n'y a pas forcément que les urgentistes, mais également le médecin généraliste qui peut être de bon recours.
Donc moi je vais vous parler plutôt justement de l'arrêt cardio-respiratoire et surtout vous expliquer un petit le fonctionnement du centre de réception et de réglation des appels, c'est-à-dire le centre 15. Donc avant ça, on va regarder ensemble un film qui va normalement bien illustrer le thème de ce soir qui est l'arrêt cardio-respiratoire et vous allez pouvoir poser vos questions plus tard. L'ingénieur du son. Il est où le micro?
Oh, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous avez? Répondez-moi!
Qu'est-ce qu'il a?
Je sais pas. Monsieur. Qu'est-ce que je dois faire?
Appelez le SAMU. Faites le cas.
Vous entendez ou pas?
Allô? Le SAMU? Oui.
On peut avoir le son, s'il vous plaît? On peut pas avoir le son? Ben oui, mais les gens n'entendent pas.
C'est un peu, je sais pas d'où ça sort le son.
Il est où le micro?
massage cardiaque?
Non.
Non, personne. Oh, venez vite, je vous en prie.
Monsieur,
je sais pas.
Monsieur? Que s'est-il passé?
Bah, c'est dommage.
La circulation tremble.
Bon.
Et les organes?
On va avancer, c'est pas grave. Il est en train d'expliquer ce qui s'est passé. On en parlera tout à l'heure.
Elle ne respire pas ou qu'elle respire de façon très anormale. Il n'y a pas de doute. C'est un arrêt cardiaque.
C'est mieux.
Il faut faire le gaz, appeler le SAMU, décrire la situation et on va pouvoir commencer les premiers gestes.
Vous avez un téléphone? S'il vous plaît, faites le 15. Appelez le SAMU. Que mon ami est en arrêt cardio-respiratoire. Que nous sommes passés, Micheldel, à Paris dans le 15e et que je commence le massage cardiaque.
Il faut maintenant réaliser le massage cardiaque externe. Sans attendre l'arrivée des secours, vous appuyez au milieu.
On va peut-être remettre le film au départ, si vous voulez, docteur.
Ce geste va faire recirculer le sang.
Régis, vous avez l'air fatigué. La journée a été dure.
Je suis stressé et... Léa, je suis pas bien, Catherine. J'ai comme un poids sur la poitrine.
Régis, oh, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous avez? Répondez-moi.
Qu'est-ce qu'il a?
Je sais pas.
Monsieur.
Qu'est-ce que je dois faire? Aidez-moi, je vous en
prie. Appelez le SAMU. Faites le 15.
Oh. Allô?
Monsieur.
Le SAMU, oui. Mon ami vient de faire un malaise. Et geste d'urgence. Mais non, je les connais pas. Est-ce que quelqu'un sait faire le massage cardiaque?
Non.
Non, personne. Oh, venez vite, je vous en prie.
Monsieur?
Venez vite.
Monsieur?
Je sais pas du tout.
Que s'est-il passé? Le cœur s'est arrêté. La circulation sanguine ne s'est plus faite. Et les organes vitaux n'ont plus été irrigués, et en particulier le cerveau, qui va être l'objet de lésions rapidement irréversibles, et si rien ne se passe, en quelques minutes, le décès va survenir. Il faut donc que tous nous sachions effectuer les trois gestes indispensables pour récupérer un arrêt cardiaque. Appeler le 15, faire un massage cardiaque pour assurer la circulation sanguine, et rapidement, lorsqu'un défibrillateur est à disposition, défibriller le cœur, pour faire repartir la pompe.
Régis, si vous m'entendez, clignez des yeux. Serrez-moi la main. Il est inconscient.
Lorsque la victime ne bouge pas, qu'elle est inconsciente, qu'elle ne réagit pas, qu'elle ne respire pas ou qu'elle respire de façon très anormale, il n'y a pas de doute, c'est un arrêt cardiaque. Il faut faire le 15, appeler le SAMU, décrire la situation, et on va pouvoir commencer les premiers gestes.
Vous avez un téléphone? S'il vous plaît, faites le 15. Appelez le SAMU. Vous dites que mon ami est en arrêt cardio-respiratoire, que nous sommes passés, Micheldel, à Paris, dans le 15e, et que je commence le massage cardiaque. Merci, je m'en occupe.
Il faut maintenant, immédiatement, réaliser le massage cardiaque externe. Sans attendre l'arrivée des secours, vous appuyez au milieu de la poitrine en cadence. Ce geste va faire recirculer le sang. Vous créez une circulation qui va permettre de gagner de précieuses minutes.
Et 10 et 11. Vous savez s'il y a un défibrillateur à proximité?
Il y en a un qui vient d'être installé à côté, je peux aller vous le chercher.
Oui.
C'est maintenant qu'il faut utiliser le défibrillateur. Cet appareil va donner un choc électrique qui fait repartir le cœur. Il est vraiment très simple à utiliser et très sûr. Tout le monde peut le faire.
Voilà. Vous savez utiliser?
Oui. Tirez sur la poignée rouge pour ouvrir le sachet. Voir illustration sur les électrodes. Ôtez le plastique bleu d'une électrode. Appliquez l'électrode sur la peau nue comme illustré. Appuyez fermement sur l'électrode. Ôtez le plastique bleu de l'autre électrode. Appliquez l'électrode sur la peau nue comme illustré. Appuyez fermement sur l'électrode. Préparation du choc en cours. Reculez-vous. Ne touchez pas le patient. Choc en cours. Choc délivré.
Depuis un décret de mai 2007, tout citoyen est aujourd'hui autorisé à utiliser un défibrillateur automatique. Si nous sommes plus nombreux à être formés, et si les villes s'équipent de défibrillateurs automatiques, par les communautés urbaines, les grandes entreprises, les grandes surfaces, c'est autant de chances supplémentaires que nous donnerons aux victimes d'un arrêt cardiaque. Il faut savoir que nous sommes en retard dans notre pays par rapport à bon nombre de pays voisins. C'est en effet moins de 3% des victimes d'un arrêt cardiaque qui sont aujourd'hui sauvées, par rapport à 30% dans certains pays qui ont su conduire la formation de la population et qui ont équipé leur ville de défibrillateurs en nombre suffisant.
C'est bien, madame. Vous voyez ce que vous avez fait, il y a plus de chances de s'en sortir. On va le prendre en charge. Je prends le relais. Tu peux me prendre le massage, s'il te plaît ? L'oxygène. Voilà, continue, continue de masser.
Catherine a effectué trois gestes simples qui ont sauvé Régis d'une mort certaine. Elle a appelé, elle a massé, elle a défibrillé. Demain, c'est peut-être vous qui serez confronté à la même situation. Se former aux gestes qui sauvent est une démarche nécessaire, généreuse, civique, qui ne vous prendra qu'une à deux heures. Vous trouverez des formations dans votre région, dans votre ville, simples et rapides. N'hésitez plus.
Arrête de masser, arrête de masser. Ça y est, il respire. Voilà, c'est bon. Voilà.
Je suis mort il y a 9 ans et si je suis là pour vous en parler, c'est que quelqu'un a effectué les gestes qui sauvent. Sur 5 personnes ayant survécu à un tel accident, 4 ont été sauvées grâce à l'intervention d'un témoin. Avec du sang-froid et une formation de moins d'une demi-journée, on peut sauver une vie. Alors formez-vous.
Après, il faut sortir. Voilà, donc vous avez bien vu le film, il résume tout. Je voulais juste vous dire, quand vous faites le 15, vous atterrissez ici, dans cette salle. Plusieurs personnes travaillent dans cette salle. Et votre appel, il atterrit d'abord, enfin le décrocher. Quand vous faites le 15, la première personne qui décroche le téléphone, c'est un assistant de régulation médicale. Ce n'est pas un médecin. Lui, il est par contre formé pour réceptionner votre appel, le traiter et surtout reconnaître une détresse vitale. Et à partir du moment où il l'a reconnu, il va prioriser l'appel au médecin régulateur. Le médecin régulateur, c'est un médecin urgentiste qui est formé à la régulation médicale et donc à faire un diagnostic par téléphone. Donc il va vous poser beaucoup de questions qui, dans l'urgence, effectivement, ça vous paraît un petit peu embêtant, mais pour nous, qui sont très primordiales, pardon, pour comprendre la situation et surtout vous envoyer les secours les plus appropriés. L'assistant de régulation médicale, j'ai oublié de vous le dire, il est là aussi pour prendre vos coordonnées. Donc c'est important que vous donniez votre nom, votre prénom, votre adresse. Il doit voir si vous appelez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Et dans l'adresse, ne pas oublier de donner un digicode, l'étage. Tout ça, ça va nous permettre d'arriver chez vous au plus vite. Et ensuite, donc, il passe l'appel au médecin régulateur qui, en ce qui nous concerne ce soir, reconnaît l'arrêt cardio-respiratoire par téléphone, va demander à l'autre assistant de régulation médicale qui est à côté, ça marche pas effectivement, à l'autre assistant de régulation médicale qui est à côté, qui va vous envoyer les secours, mais qui va rester avec vous au téléphone pour vous guider au massage cardiaque et à la défibrillation. Donc vous n'êtes pas tout seul. Juste pour vous parler de certains chiffres, en France, 40 000 à 50 000 décès par an. C'est ce qu'on appelle la mort subite de l'adulte. 80% de ces morts subites surviennent en dehors de l'hôpital. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation précise? Vous avez vu le film? Par le biais de cette chaîne de survie, on apprend à faire des gestes. Qui dit chaîne dit plusieurs maillons. Et vous allez voir que dans les 4 premiers maillons, vous êtes tout seul. C'est-à-dire que vous avez reconnu l'arrêt cardio-respiratoire chez une personne qui est inconsciente et qui ne respire pas. On vous a montré dans le film comment on reconnaît l'inconscience. C'est quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne parle pas, qui n'ouvre pas les yeux spontanément et qui ne vous répond pas quand vous lui demandez de serrer les mains. Enfin, il ne va pas serrer les mains. Qu'est-ce que vous faites en premier lieu ? Vous appelez le 15. Vous appelez donc les secours, le 15 ou le 18. On verra après que ça ne change pas grand-chose. Mais vous appelez donc le 15 pour que vous ayez donc les secours le plus rapidement possible. Et puis après, vous vous mettez directement au deuxième geste qui sauve. Ça marche pas toujours, ça. Voilà. Le deuxième geste à faire, c'est le massage cardiaque. Le professeur Carly, qui est un peu le pionnier de la réanimation cardio-pulmonaire, vous a expliqué qu'en faisant ce massage cardiaque, on arrive à sauver deux organes ou à protéger deux organes nobles, qui sont le cerveau et le cœur. En effet, quand vous comprimez, vous envoyez le sang vers le cerveau et vous le protégez. Quand vous relâchez, le sang revient vers le cœur et donc vous sauvez le cœur. Ensuite, la troisième action à faire, c'est la défibrillation précoce. On vous a montré, vous localisez le défibrillateur, vous le demandez à ce que quelqu'un vous le ramène et vous mettez les électrodes en place pour pouvoir défibriller. Il faut que la défibrillation soit précoce. Finalement, vous voyez que le médecin n'arrive qu'en quatrième position. Donc sur les trois maillons de la chaîne, vous êtes les acteurs principaux. Et on compte sur vous. Si on doit chronométrer cette chaîne de survie, dans l'idéal, ça serait qu'en moins de 2 minutes, l'alerte est arrivée au centre 15. En moins de 3 minutes, vous avez commencé le massage cardiaque. En moins de 5 minutes, vous avez défibrillé. Et enfin, en moins de 8 minutes, le médecin est arrivé. Pourquoi ? Parce qu'on sait que dans 3 minutes, au bout de 3 minutes, il y a des lésions cérébrales qui s'installent. Et au bout de 8 minutes, il y a la mort cérébrale et qui est irréversible. Donc c'est une course contre la montre. Et on sait qu'une minute de perdu, c'est 10% de moins de survie. Alors, où en est-on aujourd'hui ? Je voulais vous montrer des chiffres qui sont sortis là sur une thèse qu'un collègue nous a présentée il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, hein, c'est du mois de novembre, qui a étudié à travers un registre 237 arrêts cardio-respiratoires qui ont été pris en charge par le SMUR de la Vienne, dans tout le département. Alors, on remarque que les appels sont, on ne va pas très bien, mais le chiffre est de 71%. L'appel provient de la famille, c'est la famille qui appelle les secours. Ensuite, 14%, c'est un passant, donc un témoin de la scène, qui va appeler les secours. Et quand on regarde les autres chiffres, vous voyez que les professionnels de santé, que ce soit l'infirmière ou le médecin, l'appel n'arrive que dans 8% des cas. Donc ce qui veut dire que l'arrêt cardio-respiratoire, malheureusement, ne se passe pas devant un professionnel de santé. Ce qui est rassurant quand même, et ça se voit que les campagnes nationales sur l'appel au 15 commencent à marcher, puisque 66% des appels sont arrivés au 15. Donc ils sont arrivés au bon endroit. 34% sont arrivés chez les pompiers. Donc en tout, en fait, 80% à peu près d'appels sont arrivés au bon numéro. Puisque vous savez qu'on travaille en interactivité avec les pompiers. Dès qu'ils ont un appel sur un arrêt cardio-respiratoire, ils partent et ils nous basculent l'appel à nous. Et nous aussi, on suit derrière. Toujours pour les résultats de cette thèse, sur les 237 arrêts cardio-respiratoires étudiés, dans 35% des cas, il y a eu une réanimation cardio-pulmonaire immédiate qui a été effectuée par le premier témoin, c'est-à-dire le massage cardiaque. Et si on regarde la défibrillation, pour l'instant, on est à 3%, mais ce n'est pas trop mal, parce qu'il y a quelques années, on était à zéro. En tout, on arrive à quand même 7% de patients qui sont sortis vivants de l'hôpital. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais on est en bonne progression. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, on était à peine 1%. Ce qu'il faut retenir également, en tout cas ce qui est sorti de cette thèse, c'est que 50% des arrêts cardio-respiratoires surviennent devant témoins. Donc on devrait arriver à un chiffre beaucoup plus important. Mais ça va venir. Pour nous faire rêver, je vous ai mis une... Si ça marche... Encore. La carte des États-Unis avec ce qui est mis en rose ici, Las Vegas. Vous savez que Las Vegas, c'est une ville où il y a beaucoup de stress du fait des casinos. Mais aux États-Unis, ils ont multiplié les défibrillateurs. Il y a énormément d'informations et de formations sur les gestes de premier secours. Ils sont arrivés à 74% de taux de survie pour les sujets qui ont été défibrillés en moins de 3 minutes. Ce sont des chiffres de 2012. Donc, en conclusion, si tout le monde mettait du sien, c'est-à-dire que si on apprenait à porter secours dès la petite école, par le biais de l'APS, APS, ça veut dire apprendre à porter secours. Le petit enfant, on sait qu'il n'a pas la capacité physique, il n'a pas la force physique d'effectuer le massage cardiaque, mais au moins on va lui apprendre à appeler les secours, à alerter de façon précoce. Premier maillon de la chaîne. Ensuite, on continue l'apprentissage par le biais... Pardon. Donc, on continue l'apprentissage par le biais des formations premier secours au niveau des collèges et des lycées. Sachez qu'en France, 25% de collégiens sortent avec le PSC1. Le PSC1, c'est une formation premier secours civique de niveau 1. On continue également au niveau par le SST, c'est sauveteur et secourisme du travail. L'équivalent, on l'a à l'hôpital, c'est les AFGSU, les attestations de formation et gestes et soins d'urgence. Donc par tous ces biais-là, c'est sûr qu'on va peut-être égaler, voire dépasser les chiffres aux États-Unis. Enfin, j'espère. Et sinon, après, il reste les études médicales. Sachez quand même que le médecin régulateur qui est là, il reste garant de toute cette chaîne de survie. Vous n'êtes pas tout seul. À partir du moment où il a reçu l'appel au centre 15 sur un arrêt cardio-respiratoire, il va vous guider tout au long de cette chaîne de survie. Je vous ai mis un lien Internet ici, pour localiser les défibrillateurs qui existent à Poitiers. Et quand on regarde la carte, les défibrillateurs sont représentés sous forme d'un cœur. Il y en a pas mal. Donc là, ce qui n'est pas représenté, c'est Saint-Benoît, mais j'y habite et je suis sûre qu'il y en a au moins 4. Il y en a partout hein, maintenant. Je ne sais pas, à Buxerolles et tout ça, parce que c'est vrai que c'est pas tout, tout n'est pas représenté. Mais toutes les mairies ont travaillé pour avoir des défibrillateurs partout. Donc, en conclusion, si je dois refaire passer un message, appelez le 15, massez et défibrillez. Je vous remercie.
Alors maintenant, on va parler plutôt des enfants. Ce qui va être extrêmement important chez l'enfant, vous êtes capable de faire plein de choses sur les enfants. Et on a parlé de l'arrêt cardio-respiratoire de l'adulte. Chez l'enfant, c'est beaucoup moins fréquent. Et en fait, si vous faites plein de petits gestes, vous allez éviter l'arrêt cardio-respiratoire de l'enfant. Donc, ce qui va être important, dès que vous avez un enfant qui est dans une situation extrêmement difficile, c'est de rester calme et de ne pas paniquer. Plus vous paniquez, plus on crie, plus on s'agite autour d'un enfant, plus il s'aggrave. Et c'est vrai que c'est le plus compliqué, mais régulièrement, moi, je vois les gens arriver, ils hurlent et tout. Et nous, on met quelques minutes à détendre l'enfant et à comprendre ce qui se passe. Et plus on crie, moins on est capable de parler, de passer un appel d'aide et d'essayer de faire comprendre au SAMU, aux autres médecins généralistes ou autres, de la gravité ou non de l'état de l'enfant. Alors, la première chose, on a parlé de l'inconscience de l'adulte, c'est un peu peu plus facile que l'enfant, parce que l'enfant, en fait, il a différents âges. À 6 mois, vous ne poserez pas les mêmes questions qu'à 15 ans ou à 18 ans. Donc, il va falloir adapter. Ce qui va être important, c'est de s'approcher de l'enfant, de lui parler, de l'appeler par son prénom, de lui toucher la joue et d'essayer de lui toucher les épaules. Un enfant, même à 6 mois, si vous vous approchez de lui, que vous lui caressez la joue, que vous le souhaitez un petit peu au niveau des épaules et que vous l'appelez, il ouvre les yeux. Et ça, c'est la première chose. Si un enfant n'ouvre pas les yeux ou n'émet aucun son, aucun cri, aucune pleure, il est inconscient jusqu'à preuve du contraire. Donc s'il est inconscient, la première chose à faire, c'est ce qu'on appelle libérer les voies aériennes, ce qu'on a dit pour l'adulte. Et chez l'enfant, c'est assez simple. Les petits enfants, ils respirent pratiquement que par le nez, et les autres par le nez et par la bouche. Vous ouvrez les manteaux, vous défaites les écharpes en plein hiver, vous enlevez les oreillers qui sont devant la bouche, et si le petit enfant a le nez pris, vous lui débouchez le nez. Je vous expliquerai comment à faire après. Et vous ouvrez la bouche. Pas besoin d'avancer la mâchoire et tout, vous ouvrez la bouche, ça suffira. Et là, vous regardez s'il respire. Normalement, à 99%, il respirera. S'il ne respire pas, ce sera l'arrêt cardio-respiratoire et ce sera à peu près la même chose que chez l'adulte. S'il respire, c'est ce qu'on appelle la position latérale de sécurité. Vous la faites du côté gauche, du côté droit, peu importe. En tout cas, ce qu'il faut faire, c'est tourner le corps sur le côté, la tête et le corps. Et puis, vous, le plus grand, ben, vous pouvez le caler comme c'est sur le dessin, comme ça, il tiendra. Et le plus petit, il va falloir que vous vous mettiez à côté et que vous le teniez. Parce que sinon, si vous le mettez sur le côté, comme sa tête est très lourde, il va avoir il va pencher la tête et en fait, sa tête va se retrouver dans l'oreiller. Donc, vous n'aurez plus dégagé les voies aériennes. Ça, c'était si mon enfant est inconscient. Ce qui se passe, et là, les fêtes de Noël approchent, donc attention aux apéritifs, c'est mon enfant étouffe. Alors, j'ai mis des mots parce que c'est les appels que nous, on a ou que le SAMU a. Mon enfant étouffe ou mon enfant est inconscient. Alors, mon enfant étouffe, il peut étouffer par deux façons. La chose la plus fréquente, et c'est pour ça que je vous parle de Noël et des autres fêtes, c'est au moment de l'apéritif, vous êtes en train de boire, de manger, de discuter, et là, il y a le petit enfant, il a 2-3 ans, et puis lui, il attend son repas, il a un peu faim, et la seule chose qu'il voit sur la table, c'est la cacahuète. Il attrape la cacahuète, et un petit enfant, ça ne mange pas de cacahuète, parce que sinon la cacahuète passe pas où il faut, et d'un seul coup, vous le voyez, il change de couleur, voilà, et... Là, vous ne paniquez pas, vous n'essayez pas de savoir s'il a la cacahuète dans la bouche, vous ne la retirez pas avec les doigts, parce que le risque, c'est que vous la poussiez, donc vous n'y touchez pas cette cacahuète. Vous regardez comment est l'enfant. L'enfant, il est assis, il tousse, il fait que de tousser, vous le laissez tousser, vous le laissez assis, vous prenez votre téléphone et vous appelez le 15. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous ne l'allongez pas. L'enfant, il est inconscient, c'est-à-dire qu'il prend la cacahuète, il a toussé 3 secondes, il tombe par terre, il ne vous répond plus, il est bleu. Ou alors, il est toujours conscient, il a les yeux ouverts, mais il transpire, il n'arrive plus à tousser et il est vraiment bleu sur le visage. Vous voyez bien qu'il ne peut plus respirer. Eh bien, là, vous allez faire des manœuvres. Et c'est les manœuvres qu'on appelle, il y a une manœuvre particulière, mais peu importe le nom, en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est lui pencher la tête en avant. Alors que s'il est petit, c'est facile, vous pouvez le mettre sur votre genou. S'il est un peu plus grand, ben, vous le prenez dans vos bras, vous le penchez en avant et vous lui donnez 5 tapes dans le dos. Alors, c'est pas 5 caresses, hein, c'est 5 tapes. Vous tapez très fort dans son dos, entre les 2 omoplates, vous tapez 5 fois. Et puis après, vous le renversez dans l'autre sens et vous faites ce qu'on appelle des compressions de la poitrine, un peu comme le massage cardiaque. Mais là, c'est un petit enfant, donc si vous mettez 2 mains, ça va pas marcher. Donc vous appuyez avec vos doigts, vous appuyez 5 fois, soit la cacahuète ressort, soit elle ressort pas, et si elle ne ressort pas, vous recommencez. 5 tapes dans le dos, et puis 5 compressions sur la poitrine. Et en permanence, et pendant ce temps-là, vous essayez que quelqu'un appelle les secours le 15. Voilà. Donc si, en gros, vous êtes à l'apéritif, l'enfant, il avale une cacahuète, il se met à tousser, il tousse toujours, vous le laissez tousser, assis contre vous et vous appelez à l'aide. Si il ne tousse plus ou il devient très bleu ou il est inconscient, vous faut faire ces manœuvres-là pour ressortir la cacahuète. Et puis, s'il est un peu plus grand, vous pouvez faire la méthode que vous connaissez un peu plus chez l'adulte, qu'on appelle la manœuvre d'Heimlich. Mais il faut qu'il soit capable d'être suffisamment grand. En gros, il faut qu'il ait plus de 7 ans. Les moins de 7 ans, vous n'y arriverez pas. C'est la manœuvre qui est en bas. Et j'ai parlé de la cacahuète, et c'est aussi l'histoire du petit jouet. C'est-à-dire que vous avez un petit enfant qui a 1 an, qui joue avec son frère, qui fait des Legos. Puis d'un seul coup, il est dans la pièce à côté. Et puis d'un seul coup, vous l'entendez tousser, 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 tousser. Et jusqu'à preuve du contraire, il a avalé le Lego. Mais vous n'allez pas chercher dans la bouche. Alors, l'autre possibilité, et c'est ce qui se passe actuellement, c'est il est gêné pour respirer. En fait, c'est surtout les tout petits bébés, c'est les épisodes de bronchiolite à l'heure actuelle. Et la première chose qu'il va falloir faire, parce que l'enfant est très enrhumé, très pris, et qu'il ne respire pratiquement que par le nez, c'est de lui déboucher le nez. La bonne technique, c'est celle qu'il y a là. Toutes les autres, Et c'est des photos d'internet et c'est des photos, ils disent que c'est ça un lavage de nez. Ce n'est pas un lavage de nez. Un lavage de nez, c'est de vraiment déboucher le nez, soit avec des petites pipettes de sérum physiologique, soit avec un mouche bébé. Et en fait, on met l'enfant sur le côté, on met le produit dans la narine du haut, le produit doit ressortir par l'autre narine, où vous l'aspirez avec le mouche bébé. Toutes les autres techniques, c'est-à-dire les sprays, un petit coup dans le nez, ou avec le coton-tige, où on essaye de faire moucher un enfant de 6 mois, ça ne marche pas. Et si je vous montre ça, c'est que si vous faites ça, votre enfant va mieux respirer et il évitera d'autres complications après. Donc ça, c'est un geste extrêmement facile que vous pouvez faire dès que vos enfants ou les petits sont enrhumés. L'autre urgence, et c'est un petit peu moins la période parce que c'est plutôt les barbecues et au moment où vous allumez les cheminées, les inserts, c'est mon enfant s'est brûlé. Alors, un enfant, ça ne ressent pas la brûlure en immédiat, donc ça se brûle toujours plus profondément que l'adulte. Alors, avant de nous l'amener aux urgences, parce que en général, il est bien, il hurle, il a mal et tout ça, il faut faire quelques petits gestes, parce que plus on stoppera la brûlure rapidement, moins la brûlure sera grave. Alors, ce que ça veut dire, c'est refroidir la brûlure. Alors là, normalement, c'est 15 minutes, 15 cm, 15 degrés. C'est extrêmement compliqué. Ce qu'il faut retenir, évidemment, vous mettez votre main sous l'eau chaude, sous l'eau, vous regardez qu'elle soit tiède, pas chaude, ni gelée, tiède, que vous arrivez à mettre votre bras dessous, et vous laissez la brûlure de l'enfant, vous mettez la brûlure sous l'eau et vous comptez 15 minutes. C'est extrêmement important, les 15 minutes. L'urgence n'est pas de l'amener chez nous, c'est vraiment de refroidir la brûlure. Vous refroidissez, vous laissez 15 minutes et vous n'appliquez rien d'autre dessus. Il n'y a pas de produit à mettre que vous avez dans votre... ce que vous avez lu, le dentifrice, je sais pas, l'œuf. Enfin, il y a plein de choses qui sont écrites et qui sont dites. On n'applique rien, il n'y a que l'eau. Ce qui est important, c'est que si l'enfant... alors, c'est surtout l'hiver, parce que l'été, quand c'est le barbecue, on refroidit, on met sous l'eau, et puis là, vous l'emmenez aux urgences ou au médecin généraliste. Ça, c'est la première chose. Là, l'hiver, quand il se brûle avec les cheminées et tout ça, en général, vous passez le bras sous l'eau ou un peu plus quand c'est le bol d'eau chaude. Les vêtements, quand vous l'avez mis sous l'eau, elles peuvent être très humides. Ces vêtements humides, il faut essayer de les retirer, parce que l'enfant se refroidit très, très vite. Et il risque l'hypothermie. Donc il faut le passer sous l'eau pour refroidir les brûlures et ensuite essayer de retirer les vêtements, mais on ne retire pas les vêtements qui sont en contact de la brûlure, juste les 2-3 épaisseurs au-dessus. Et si vous avez peur qu'il ait froid, vous recouvrez d'un linge propre ou d'un manteau. Et ce qui est important, c'est de calmer la douleur. Donc n'oubliez pas que ce qui calme très très bien la douleur, c'est quand même le paracétamol. Votre enfant, il a de la fièvre. Alors, si vous avez 15 ans et que vous avez de la fièvre, ça va plutôt bien se passer. Ce qui est important, c'est surtout pour le petit enfant. Les petits de moins de 3 mois, il faut normalement, là, on parle de température de fièvre au-delà de 38 et pas de 38,5. Au-delà de 3 mois, c'est 38,5. Mais la température, ça se contrôle avec un thermomètre et un thermomètre que l'on met sous le bras ou en rectal. Maintenant, on met plutôt sous le bras, parce que le reste en rectal, c'est un petit peu moins utilisé. Les thermomètres pour mettre dans les oreilles, même s'ils sont vendus dans les magasins, ne servent pas à grand-chose. Ils sont trop gros pour prendre correctement la température des petits, donc ne sont pas utiles. Et les thermomètres frontaux, c'est la même chose, ils ne sont pas assez fiables. Et la main sur un front ne suffit pas. Si je vous dis ça, c'est que... les gens nous le disent en permanence et c'est vrai que c'est important de savoir si l'enfant a de la température, surtout s'il est petit. Alors, votre enfant, il a de la température. La première chose à faire, c'est de le découvrir. Il aura froid. Imaginez-vous, vous, à 40, vous allez frissonner et la seule chose que vous pourrez faire, c'est vous mettre sous la couette. Maintenant, il faut se découvrir. Même si on a l'impression d'avoir froid. Et le petit, il faut le découvrir. On lui donne du paracétamol et on ne donne plus de bain. Donc, il a de la fièvre, on le découvre, on donne du paracétamol. Et puis, s'il a moins de 3 mois, il faut consulter un médecin. S'il a plus de 3 mois, on peut se permettre de garder, d'avoir de la température pendant 2 jours si c'est bien supporté. Mais les moins de 3 mois, consultation systématique chez un médecin. Alors, pourquoi c'est important la fièvre ? Parce que le risque, c'est la convulsion chez le petit enfant et le moins de 5 ans. Le petit de moins de 5 ans, dès que la température monte rapidement ou dès que la température baisse rapidement, à haut risque de convulser. Et la convulsion, même si vous êtes un médecin ou autre, c'est toujours très impressionnant. Alors, si vous gérez correctement la fièvre, et c'est pour ça qu'on ne préconise plus le bain, il y a moins de risques qu'il convulse. Le bain, si vous voulez, pour que ça marche bien, il fallait baisser la température de 2 degrés. Donc si votre enfant il avait 40 ou 41, il fallait lui donner un bain à 39. Si vous lui donnez un bain à 39, vous gérez une brûlure. Donc pour pas le brûler, vous lui donniez un bain à, on va dire, 30 degrés. Et si vous êtes à 40 et qu'on vous baisse à 30 degrés, vous perdez 10 degrés et l'enfant, il a haut risque de convulser. Et on a plein d'enfants qui ont convulsé dans le bain. Donc, outre le fait qu'il risque d'avaler de l'eau, c'est toujours très impressionnant. Donc, gérer la fièvre. Et puis, si vraiment il convulse pour de la fièvre ou pour autre chose, il y a quelques petits gestes à faire qui sont de protéger l'enfant. Ça veut dire qu'il ne faut pas le bloquer, l'enfant. C'est juste que s'il est sur un canapé, vous le descendez du canapé. Parce que si les convulsions, vous voyez, c'est des mouvements dans tous les sens, l'enfant est inconscient, il bouge les bras et les jambes dans tous les sens, le risque, c'est qu'il tombe du canapé et que vous ayez à gérer la chute du canapé. Donc, vous le protégez, vous l'écartez des chaises et tout ça, mais vous ne l'immobilisez pas. Ça ne sert à rien. Ça n'arrêtera pas la convulsion. Et vous ne mettez pas les doigts dans la bouche. Parce que le risque, c'est que la mâchoire est extrêmement serrée, c'est que l'enfant morde, et quel que soit son âge, il y a un haut risque qu'il y ait il morde suffisamment fort pour vous blesser. On a des parents qui perdent un bout de doigt, quoi. Comme ça, donc c'est... Et ce qui est extrêmement important, c'est de noter l'heure des débuts des convulsions. Si vous pouvez, parce que c'est pas la même chose de convulser plus de 5 minutes ou moins de 5 minutes. Et quand on pose la question aux gens, bah, c'était tellement long, et chaque seconde est tellement longue qu'on arrive à des temps qui sont de 30, 40. Enfin, ça n'a pas de valeur. Et ça va être important de donner la durée au médecin que vous aurez au téléphone. Et au moment où il convulse, c'est intéressant de prendre la température. Si vous saviez qu'il avait 40 avant, si vous n'avez pas donné le doliprane, faites-le. Ou le paracétamol. La convulsion, sinon, à part si votre enfant a déjà convulsé, vous n'aurez pas d'autre moyen de l'arrêter. Très important. Dès que la convulsion s'arrête, si elle s'arrête spontanément, comme l'enfant va être inconscient derrière, vous le mettez en position latérale de sécurité. L'autre chose, c'est mon enfant vient de chuter. Le plus fréquent, c'est le petit enfant de moins d'un an qui tombe de la table allongée parce que vous n'aviez pas pensé que maintenant il se retournait et que lui, ce qu'il voit, c'est le petit jouet qui est au fond de la baignoire ou à côté, qu'il a envie d'aller attraper. Vous vous retournez pour aller chercher le pyjama qui est par terre et l'enfant tombe de la table allongée et ça fait du bruit. C'est très impressionnant. La première chose qu'il va taper, c'est la tête parce que là, chez l'enfant, la tête est plus lourde que le reste du corps. Et vous allez vous poser la question, faut-il aller ou non voir le médecin? Les questions, c'est, il est tombé. A priori, la tête a tapé, donc c'est ce qu'on appelle un traumatisme crânien. Ce qui est important, c'est de savoir s'il perd connaissance, s'il est inconscient. Si l'enfant, dès qu'il tombe, il hurle, c'est déjà bien. Et puis après, s'il a perdu connaissance, il va falloir consulter un médecin. S'il n'a pas perdu connaissance, il va falloir vous poser la question, est-ce que l'enfant a un comportement comme d'habitude? Est-ce qu'il se remet à jouer dans les minutes qui suivent? Est-ce qu'il vous parle? Est-ce qu'il vous raconte sa journée et tout ça? S'il fait ça, bon comportement, vous pouvez le garder en surveillance à la maison. Si par contre, il a un comportement inhabituel, il vous dit n'importe quoi, il vous répète tout le temps les mêmes choses, toujours la même chose, il va falloir consulter un médecin. La même chose s'il vomit. Alors un enfant, quand il est tombé, a le droit de vomir une fois. C'est plutôt les vomissements à répétition, 2, 3, 4, 5 fois qui sont importants. Et puis si vous voyez des bleus qui apparaissent au pourtour des yeux, ça fait vraiment des petites lunettes, eh bien il faut consulter un médecin. Et si l'enfant tombe de plus haut, ne se relève pas, ne bouge pas, vous le laissez dans sa position. Si un enfant par exemple tombe dans les escaliers, il reste par terre, il ne bouge pas, il vous parle et tout ça, vous le laissez par terre, vous lui parlez et vous appelez les secours et là les gens le prendront en charge. Pourquoi on ne le bouge pas? C'est pour éviter d'avoir d'autres lésions qui sont au niveau du rachis. L'une des dernières choses, c'est l'enfant qui saigne. Dès qu'il tombe, le sang, c'est très impressionnant. Ça fait pleurer un enfant. ça ne sert à rien pour nous de voir le sang. Par contre, pour l'enfant, c'est très anxiogène. Donc, ce qui est important, c'est d'arrêter les saignements. Alors, s'il saigne du nez, vous le faites pencher en avant et puis vous appuyez sur le nez. Puis c'est ce qu'on appelle la compression manuelle. Si c'est sur une autre plaie, il faut comprimer la plaie, comme dans les accidents de la voie publique, quoi. Et puis, si vous avez une petite plaie au niveau du front, mais c'est pareil, vous appuyez sur le front, vous pouvez mettre un pansement, puis après, vous consultez le médecin. Mais laissez pas les enfants, parce qu'on voit tout le temps les enfants arriver chez nous, ils ont du sang partout, ça coule. Dans la salle d'attente, les autres parents les laissent passer, mais enfin, c'est pas la peine, quoi. Voilà. Et puis, ce qui est important chez les enfants, outre les premiers gestes que vous allez faire pour eux, il y a beaucoup de prévention. Et chez le tout petit, une des préventions, il y a des grandes campagnes de publicité. Il y a la même chose dans les carnets de santé et tout, c'est les couchages des nourrissons. C'est pour éviter une chose qui est ce qu'on appelle la mort subite du nourrisson ou la mort inattendue du nourrisson. C'est des petits bébés qui meurent dans leur sommeil. Ces enfants-là, c'est des situations difficiles et c'est des situations où souvent on arrive trop tard, les premières minutes sont passées et on a du mal à récupérer un rythme cardiaque. Et pour éviter ça, il y a eu des études qui ont été faites et qui évitent ces choses-là, c'est un, de faire dormir tous les bébés sur le dos, même si l'enfant préfère dormir sur le ventre, non, il faut le faire dormir sur le dos avec un matelas assez ferme. On n'utilise plus les matelas mous. On évite d'utiliser le matelas qui a servi aux grands-parents ou aux parents, même s'il est intact. On utilise des petites turbulettes. Alors, si vous ne savez pas quoi offrir à vos petits-enfants à la naissance, achetez une turbulette. C'est très utile, ça sauve des vies. Et puis, on dort dans des lits à barreaux, pas dans le lit des parents, pas dans les bras des parents, parce que le risque, c'est qu'on s'endorme et qu'on se couche sur eux. Et puis, on essaye d'avoir la température de la pièce le plus proche possible de 19 degrés. C'est-à-dire pas trop chaud, mais pas trop froid non plus. Donc, on n'utilise pas les couettes, les oreillers, parce que le risque, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est la liberté des voies aériennes. C'est que l'enfant, peut-être, il s'est retourné une fois, mais il se retournera peut-être pas une deuxième fois. Donc, ça lui évite d'avoir la tête dans l'oreiller. Et puis, même si ça fait partie des longues listes de naissance, les tours de lit. Les tours de lit, c'est joli, mais c'est joli sur les catalogues et pas dans les lits. Donc, achetez plutôt les turbulettes et pas les tours de lit. Et c'est pas de la pub. Et puis, autre chose. Alors, ce qui peut arriver, c'est les médicaments. Vous avez vos petits-enfants en vacances chez vous. Vous prenez des médicaments, vous avez des piluliers et tout ça. Et puis, les médicaments, c'est des médicaments d'adultes, des médicaments pour le cœur que les enfants ne sont pas censés prendre. Et le risque, c'est que l'enfant, il prenne ça pour un bonbon. Alors, outre, c'est compliqué d'avoir son petit enfant qui prend le médicament. C'est très anxiogène pour les grands-parents, pour les parents, pour tout le monde. Alors, ce qui est important, c'est de ranger les piluliers, de ranger les boîtes quand vous avez des enfants en bas âge, enfin, des enfants tout court, et d'utiliser des pharmacies qui sont fermées quand on est parent et en hauteur. Les jouets, je vous l'ai dit, les petits objets, faites attention. Après, quand il y a un petit et un enfant qui est plus grand, c'est toujours compliqué de tout ranger ou alors vous êtes toujours derrière vos enfants. Voilà. L'autre chose, c'est les produits ménagers. Les produits ménagers, c'est comme les médicaments. Ça se met en hauteur et ça ne se déconditionne pas. Ça veut dire quoi se déconditionner? C'est que parce que vous savez très bien que vos produits ménagers, vous les reconstituez avec vos berlingots, vous les mettez dans des bouteilles en plastique d'Evian, vous le mettez sous votre lavabo. Et puis, vous savez que c'est ça, et puis vous y touchez pas. Vous avez votre petit qui est là en vacances, il fait chaud, il fait 30 degrés, vous êtes en train de jardiner, et puis lui, il a soif. Lui, il va aller à sa hauteur, c'est sous le lavabo. Il voit une bouteille d'eau, il la connaît, cette bouteille d'eau, c'est celle qui est sur votre table. Et il va boire dedans, sauf qu'il va boire le produit ménager. Donc, on les déconditionne pas, les bouteilles. On les met toujours en hauteur. Et en voiture, si vous... Toujours dans des sièges auto, ça paraît la base, mais régulièrement, on voit les enfants qui ne sont pas bien attachés parce qu'un enfant, ça a jamais envie de s'attacher. Non, faut les apprendre, c'est des sièges auto, ils sont attachés comme vous. Ça évite les accidents de la voie publique parce qu'un enfant, dans un accident de la voie publique, comme c'est un tout petit poids, sur un choc parfois peu violent, s'il n'est pas attaché, il vole très très loin. Et puis, je vous l'ai dit, pour les cacahuètes. Et comme on vous a dit tout à l'heure, un enfant, c'est capable de passer des appels, pas un an, mais à 5-6 ans. Donc il faut les apprendre à passer un appel d'aide, à dire leur nom, leur prénom, leur adresse et leur âge. Parce que si le médecin du SAMU qui reçoit l'appel, il a un enfant de 6 ans au téléphone qui appelle, il sait que c'est un enfant de 6 ans, il ne va pas lui poser les mêmes questions qu'à 20 ans. Donc n'hésitez pas, ils sont suffisamment intelligents, ils connaissent les numéros. Alors ce qui est pas mal, c'est d'apprendre à faire le 15. Après, par expérience, les enfants, ce qu'ils connaissent, c'est le 18. Parce qu'il existe un jeu qui est le Playmobil. Et le Playmobil, ça existe, c'est le camion de pompiers. Et il y a le gros chiffre 18 dessus, donc ils le connaissent bien. Et il n'y a pas encore de Playmobil avec le chiffre 15. Donc voilà.
Alors moi, je vais vous parler du rôle du médecin généraliste dans l'urgence. Alors c'est un peu vague. Je vais reprendre rapidement, si ça marche, la définition de l'urgence. Donc il y a une situation non prévue, brutale, qui demande une réponse immédiate. On en a déjà parlé tout à l'heure, on va aller assez rapidement. Elle peut être soit vitale, donc qui met en pronostic la vie du patient, fonctionnelle, la fonction d'un organe, c'est une plaie profonde de la main, une torsion de testicule, une plaie de globe oculaire par exemple. Elle est souvent ressentie. Et c'est là qu'on appuiera un petit peu tout à l'heure. Ce qu'on expliquait quand les patients viennent aux urgences, c'est le sentiment de gravité qui vous fait avoir peur et venir aux urgences. Et puis, elle peut être sociale. Bon, c'est un petit peu particulier. Alors, dans l'urgence vitale, très souvent, maintenant, vous le savez très bien le faire, reconnaître l'urgence quand elle est là. Le patient le perçoit, appelle le 15. Bah, dans un certain nombre de cas, on peut aussi être appelé. On peut réaliser les premiers soins, ce n'est pas toujours évident dans certaines zones. Le SAMU, il n'est pas toujours là très rapidement et on a souvent l'avantage de la proximité. Donc on est là pour donner les premiers soins et rassurer, calmer et protéger le patient en attendant le SAMU. Il arrive aussi assez fréquemment que par crainte d'aller aux urgences, parce qu'on ne veut pas embêter, parce qu'on va attendre, le patient il arrive dans le cabinet. Et là, notre rôle, il est d'authentifier l'urgence réelle, d'alerter le SAMU, de décrire exactement les signes, de réaliser les premiers soins, et puis d'attendre le SAMU avec le patient. Mais évidemment, on ne le laisse pas dans la nature. Oula, ça ne passe plus. Donc, dans l'urgence vitale, il y a quelques exemples ici, la crise d'asthme, la réaction allergique, la convulsion ou l'hypoglycémie. C'est des situations dans lesquelles le généraliste il peut aussi intervenir. Il n'y a pas forcément toujours besoin d'avoir un camion du SAMU avec tout un tas de matériel pour pouvoir aider. La crise d'asthme, souvent, les aérosols, on les a. On peut calmer le patient et agir. Dans la réaction allergique, c'est toujours pareil. On peut aussi injecter les produits. Idem pour la convulsion. L'hypoglycémie, quand c'est chez un diabétique, c'est souvent dû des fois à une erreur de prise. C'est typiquement la personne qui fait l'infirmier passe faire l'insuline avant le repas du midi. Il y a le petit enfant qui appelle, la personne passe une demi-heure, trois quarts d'heure au téléphone, oublie de manger et tombe dans le coma. Ça peut arriver. Là, on peut très bien récupérer avec une simple injection de glucose qu'on a des fois dans le frigo ou qu'on a aussi au cabinet. Il n'y a pas toujours besoin de faire déplacer le SAMU. Donc, dans ces cas-là, le généraliste, il a l'avantage de la proximité, de la connaissance du patient. Souvent, c'est son patient et on connaît ses antécédents et son traitement. Et il peut intervenir rapidement et faire le relais avant l'arrivée des urgences. Alors, on va parler un peu plus de l'urgence non vitale, qui peut être parfois fonctionnelle et ressentie. C'est un motif fréquent de consultation aux urgences. On l'a vu tout à l'heure, trois quarts des patients ressortent des urgences après avoir consulté, donc ne sont pas hospitalisés, même s'ils ont eu des thérapeutiques. Des fois, ils n'en ont aucune. Ça peut encombrer les urgences et donner des délais de prise en charge élevés. Délais de prise en charge pour les patients qui attendent pour une simple consultation, mais également pour les patients qui sont plus graves et qui vont attendre un peu plus. On l'a vu sur l'arrêt cardio-respiratoire, c'est valable pour d'autres choses. Le délai d'intervention est parfois très important, et comme l'AVC par exemple, l'action vasculaire cérébrale, et encombrer les urgences peut entraîner une perte de chance pour ces patients-là. Alors, les motifs principaux de consultation pour lesquels les gens viennent, sont souvent d'ordre traumatologique, l'ophtalmo, la dermatologie, la rhumatologie et l'ORL. Alors je vais les détailler un petit peu plus. En traumatologie, c'est souvent la plaie. On s'est coupé, on a bricolé, on s'est coupé, entaillé. Ça nécessite souvent une simple exploration et une suture. C'est des choses qui se font très bien en cabinet. On peut explorer la plaie, on a des kits de suture, on peut réparer ça très, très facilement et très rapidement, souvent beaucoup plus rapidement qu'aux urgences d'ailleurs. Et quand on sait que, quand on voit que la plaie est trop profonde, il y a des lésions importantes, et ben on réoriente sur le service des urgences, bien évidemment. Dans les traumatismes articulaires, exemple en torse de cheville, le traumatisme de genou, les examens complémentaires, ils ne sont pas toujours utiles. Ils peuvent souvent être différés. Et quand on en a besoin, on peut les avoir assez rapidement en ville. Il suffit de décrocher son téléphone. Et en général, on a la radio dans les 24-48 heures. Et ça suffit amplement. Pas besoin de passer aux urgences pour ça. Ce qui est souvent recherché, c'est le soulagement de la douleur, qui est principalement d'ordre médicamenteux. Et ça, bien évidemment, on sait très bien le faire également. En ophtalmo, là, vous avez un bel exemple de conjonctivite. Le motif principal, c'est l'œil rouge ou infectieux. Souvent, l'examen clinique suffit. Rarement besoin de faire intervenir l'ophtalmo. Le traitement, il se fait en ambulatoire très bien et on fait le suivi sans souci. Le corps étranger, alors ça, c'est typiquement le bricolage ou la moto, la visière relevée. On fait les explorations sous anesthésie locale. C'est un simple collier qu'on a dans nos trousses, médicales. Très souvent, on peut retirer le corps étranger, vérifier qu'il n'y ait pas de plaie importante. En cas de doute, de toute manière, on peut orienter sur la consultation d'ophtalmo, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Il n'y a pas forcément besoin de passer par la case urgence adulte ou pédiatrique. C'est plus rare. En dermatologie, troisième motif important, c'est souvent les urticaires. Donc les urticaires, ce sont des réactions allergiques qui répondent très bien à un traitement médicamenteux simple. Là, je vous passe par contre l'état de choc ou l'œdème de Coeur qui demande en général une réponse un peu plus rapide et pour lequel il faut faire intervenir le SAMU, bien évidemment. Les érysipèles, donc vous avez un bel exemple ici, c'est un processus infectieux sur une peau suite à une plaie ou un champignon sous un ongle, des fois ça suffit. Quand c'est vu à un stade initial, un peu comme là, le traitement très souvent il se fait en ambulatoire, donc dans les cabinets. On peut faire le suivi, il y a évidemment des examens complémentaires qu'on a besoin de réaliser, mais qui n'ont pas besoin toujours d'être réalisés dans les minutes qui suivent. On peut très bien les programmer dans les cabinets, faire une prise de sang, une échographie, on les a très rapidement. Il n'y a pas forcément non plus besoin de passer par la case urgence. Et en plus, ça permet de maintenir les gens à domicile, ce qui est parfois quand même très bien. Les kystes et les abcès, c'est un autre motif. Bon, ça, il faut les drainer. On peut le faire quand ils sont superficiels. Et les soins locaux suffisent dans un certain nombre de cas. Parfois, il faut recourir à un drainage un peu plus important, mais ça, après, on réadresse les gens, il n'y a aucun problème. Alors, la rhumato, c'est surtout les lombalgies, le mal de dos, avec plus ou moins une sciatique. Il y a des signes qu'il faut orienter sur une urgence, mais ça, on sait très bien les reconnaître. C'est quand vous ne sentez plus une partie de votre pied, quand vous perdez une force musculaire. C'est quand même pas ce qui est le plus fréquent. Très souvent, les gens arrivent aux urgences, ils ont vu une fois leur médecin, ils n'ont pas eu un traitement optimal, mais ils viennent quand même aux urgences parce qu'ils pensent que ça ne suffit pas, qu'on ne pourra pas faire plus, ce qui n'est pas vrai. La plupart du temps, on peut avoir d'autres options thérapeutiques et très bien y arriver. Et les examens complémentaires sont très rares, sauf en cas de traumatisme important, mais on fait rarement de radio à un stade initial. Ça peut venir après, mais ça, on a largement le temps de le prévoir en externe, dans le cabinet, lors d'une autre consultation ultérieure. Les torticolis, les cervicalgies, en dehors des AVP, c'est des choses qui sont du même ordre et qu'on gère très bien en ville, sans besoin de faire d'examens complémentaires ou autres. Et le dernier motif, qui est quand même relativement fréquent, on en a parlé tout à l'heure, c'est la douleur dentaire. Alors, quand elle arrive à 3h du matin, bien évidemment, il n'y a pas trop d'autres choix que les urgences. Mais très souvent, la douleur, elle ne survient pas brutalement à 3h du matin, elle existe bien avant. Donc souvent, le soin, il est purement médicamenteux. C'est une ordonnance qu'on donne aux urgences. Donc on peut très bien le faire également en ville. Donc anticipe un petit peu la demande et venir dans les cabinets médicaux avant. Même si les rendez-vous sont blindés, des fois on arrive quand même à trouver 5-10 minutes pour voir le patient, pour pouvoir le soulager efficacement et traiter l'état infectieux avant la prise en charge, mais évidemment par le dentiste qui sera résolutif après. Et puis les angines, les phlegmons, les maux de gorge. Alors phlegmons, c'est l'abcès au niveau des amygdales. On peut très bien le traiter. Des fois, on a besoin de tests diagnostiques rapides pour mettre un traitement antibiotique. C'est des tests que la Sécurité sociale nous fournit, qu'on a en cabinet et qu'on peut faire également. Et quand on a besoin de recourir à l'ORL, en général, on l'a aussi dans la journée ou le lendemain, simplement décrochant son téléphone et en l'appelant, en lui expliquant le pourquoi du comment, on envoie le patient. Pas besoin non plus de lui dire « allez aux urgences et puis vous verrez un ORL ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, en conclusion, que ce soit dans le cadre d'une urgence vitale Le médecin, il peut intervenir par la proximité, l'accessibilité. Bien évidemment, quand il y a une urgence vitale, vous alertez d'abord le 15. Mais si vous paniquez, si vous ne savez pas quoi faire, bah, vous pouvez aussi appeler le médecin qui souvent n'est pas très loin. Ça arrive, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que bah, dans certains cas, l'urgence vitale, c'est nous qui l'authentifions parce que les patients sont venus au cabinet. Ça m'arrivait plus d'une fois d'appeler le SAMU pour des douleurs thoraciques parce que les gens avaient peur de déranger le SAMU et sont venus gentiment voir leur cabinet à un rendez-vous l'après-midi, alors qu'ils avaient mal depuis la veille au soir. On peut donner les premiers soins, bien évidemment. Et puis, dans l'urgence non vitale, bah, comme vous l'avez pu le voir souvent, c'est l'angoisse et l'inquiétude qui vous fait venir aux urgences. Alors, la prise en charge ambulatoire est très souvent possible. Donc, n'hésitez pas à venir nous demander pour une plaie, pour autre. Vous pouvez simplement passer au cabinet. On vous dira ce qu'il faut faire ou passer un coup de téléphone. On n'est pas médecin régulateur, mais sur un certain nombre de choses, on est quand même capable de donner notre avis. Et on pourra vous dire si oui ou non, il y a besoin de passer aux urgences. Et puis, ça soulagera quand même bien nos collègues qui sont quand même relativement débordés, qui des fois finissent très, très fatigués leur garde. Voilà.
Merci. Merci beaucoup. À vous quatre. On a eu plein de réponses à des questions, hein, je pense, avec tout ça. Évidemment, vous allez pouvoir poser d'autres questions. Maintenant, c'est vous qui avez la parole. Donc, est-ce que tout de suite, il y a une première question ? Faut pas être timide. Hein. Vous pouvez, je vous rappelle, écrire les questions aussi sur le petit papier qui est dans le dossier. Moi, j'ai une première question. Je pense qu'on a tous été ici assez interpellé par le film que l'on a vu tout à l'heure sur le cas de figure de cette personne qui avait un problème cardiaque dans la rue. On a vu combien les gestes de premier secours étaient importants. Est-ce qu'on peut apprendre ces gestes à n'importe quel âge, à tout âge? Et quand on est en entreprise, souvent les entreprises proposent ces formations, mais quand on n'est plus en entreprise, quand on est retraité par exemple, comment on procède?
Alors en effet, je ne l'ai pas dit, il existe beaucoup d'associations qui proposent ce genre d'apprentissage. La Croix-Rouge, la Sécurité civile, les pompiers, le SAMU, on a un centre de formation également qui peut fournir ce genre de formation. Voilà, oui, donc on peut apprendre à tout âge, en effet. Il y a quelques associations, par exemple, Saint-Julien-Lard, qui est une association d'anciens cardiaques, qui nous appelle une fois par an à peu près, ou une fois tous les deux ans. On va les voir et on refait les gestes en groupe.
Ces formations sont gratuites ou
Celles qui étaient délivrées jusqu'à présent par le SAMU, par l'association enfin, de Saint-Julien-Lard, oui, elle était gratuite. Après, toutes les formations ne sont pas gratuites, c'est pas vrai. Il y a différents tarifs, donc ça dépend chez qui vous y allez. Je ne connais pas les tarifs.
D'accord. Enfin, on a appris quand même que c'était important.
70 euros, la dame me dit.
70 euros, d'accord.
Dame qui connaît.
Voilà. N'oubliez pas de me demander le micro pour poser vos questions et pour parler, pour que tout soit enregistré pour Internet. Est-ce que vous avez des questions?
Alors, toujours pour rebondir sur ces formations, sur ces informations, tous autour de la table, je crois qu'on a fait ça gratuitement. On a été sollicités par des mairies qui venaient d'installer des défibrillateurs, qui sont venus nous voir en nous disant « Est-ce que vous ne pourriez pas venir nous faire juste une petite information ?» et qu'on a donné gratuitement. Par contre, on ne délivre pas d'attestation, alors que les 70 euros, c'est pour délivrer un diplôme derrière.
À la limite, on peut obligé de sortir son diplôme pour faire ses gestes, effectivement, quand on arrive en situation.
Voilà. Voilà.
C'est même mieux, d'ailleurs, de le laisser dans la poche et de s'occuper des gestes. Le geste, donc, c'est, on l'a vu, le massage ici, donc...
On l'explique, on met la main au milieu de la poitrine, donc une main au milieu de la poitrine, on met la deuxième main par-dessus, et c'est pour avoir assez de force pour pouvoir comprimer le thorax. Donc le but du jeu, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir assez de force pour pouvoir envoyer le sang vers le cerveau et de ne pas oublier de relâcher pour que le sang revienne au cœur. Voilà, c'est vraiment un geste très facile à faire, mais peut-être qu'il faut l'avoir vu au moins une fois.
Ne pas hésiter à avoir un geste assez fort. Hein.
Oui, oui. Mais de toute façon, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez le médecin régulateur qui est au bout du fil, qui vous guide. Lui, il reste avec vous jusqu'à temps que les secours arrivent. Avec les téléphones portables, c'est très facile. Vous mettez le haut-parleur, vous le posez par terre et vous continuez à faire les gestes guidés par le médecin régulateur.
Comment se passe, je dirais, le scénario quand on arrive aux urgences? Comment se mettent en place les services, les différents services par rapport à telle ou telle pathologie en fait? Comment ça fonctionne? Racontez-nous un petit peu les coulisses.
Alors en fait, lorsque quelqu'un arrive aux urgences, la première personne qu'elle va voir, c'est l'infirmier d'accueil. Donc l'infirmier d'accueil va évidemment écouter le motif devenu et il va prendre ensuite un certain nombre de constantes, la tension, la température, la fréquence respiratoire, le taux d'oxygène dans le sang. Et au terme de cette évaluation, on va faire un tri. Et ce tri, il a été, il est national. Hein, c'est des choses, des grilles qui sont faites de façon scientifique et au niveau national. Et ça nous permet de trier les urgences. Donc, on a des urgences immédiates. On a des urgences qu'on doit voir dans les 30 minutes, dans les 60 minutes, dans les 140 minutes, dans les 240 minutes. Donc, voilà. Donc ça, déjà, ça va pouvoir nous renseigner. On arrive aux urgences à voir, malgré notre flux, sur les urgences immédiates et à moins de 30 minutes, on arrive à les gérer. C'est notre cœur de métier, on arrive à les voir assez rapidement. Après, en effet, quand on a commencé à voir énormément de monde, évidemment, les patients qui sont là pour... avec un tri, une catégorisation qui est plus élevée à 140-240 minutes. Ce n'est pas celle-là qu'on va voir dans l'immédiat. Et donc, il faut aussi comprendre qu'on va plutôt s'intéresser évidemment aux personnes qui ont besoin de soins immédiats.
Ce qui explique que parfois, on peut avoir l'impression de passer beaucoup de temps aux urgences, en fait.
Non seulement ça, et puis on peut également avoir l'impression que c'est pas le premier qui arrive qui va être vu, quoi. C'est d'abord le premier qui en a besoin, quoi. Donc voilà, la personne qui a des troubles respiratoires, qui est gênée, qui a vraiment besoin de soins, bah, évidemment, elle va passer avant la petite plaie du doigt qui a sûrement besoin d'être vue aussi, avant l'entorse. Mais bon, c'est comme ça.
C'est important de le savoir parce que s'il y a bien un service du CHU qui a besoin de bonne communication, je dirais que c'est les urgences parce que dans l'ensemble, et c'est quelque chose qui revient assez fréquemment, les gens disent on a attendu des plombes et des plombes et des plombes aux urgences. Et ce qui est bien de comprendre pourquoi.
Alors voilà, il y a ça. Et puis parfois aussi, on a besoin d'aller jusqu'au diagnostic. On a besoin de savoir si on a besoin d'hospitaliser ou pas. Donc évidemment, c'est pas simplement l'examen clinique qui nous permet de dire ce patient il a telle chose ou telle chose. Des fois, la médecine et la médecine d'urgence, c'est compliqué. On a besoin d'avoir des certitudes. Et donc, ces certitudes, ça va être, on va avoir besoin de faire un certain nombre d'examens complémentaires de biologie. Donc, quand on demande une biologie, le temps que ça soit analysé, c'est au moins 1h30, 2h. On a besoin ensuite parfois d'avoir une imagerie, une radiologie ou un scanner. Donc là, c'est pareil, on va avoir besoin de faire l'examen. Ensuite, ça va avoir besoin d'être interprété par un spécialiste. Et puis au terme de tout ça, on va avoir besoin d'avoir peut-être un avis spécialisé. Donc tout ajouté bout à bout, on peut vite aller jusqu'à 4, 5 heures, 6 heures de vue. Voilà, c'est vrai que c'est parfois énorme, mais ça permet aussi d'amener le juste soin.
Ouais, c'est un processus indispensable, en fait,
voilà, tout à fait.
Pour bien cerner et régler le problème. Au niveau des enfants, des petits-enfants, il y a tendance aussi chez les parents à être affolés assez rapidement, surtout quand c'est le premier, moins quand c'est le deuxième. Et on a tendance à venir un peu aux urgences pédiatriques, un peu pour tout et pour rien. Je me trompe ou pas ?
Bon, pour tout et pour rien, je ne dirais pas ça. Après, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, l'urgence vitale, elle vient pas pour rien. Après, il y a beaucoup d'urgences ressenties. Alors, c'est vrai que les parents, quand ils sont jeunes parents, ont beaucoup d'urgences ressenties. C'est-à-dire qu'un bébé qui pleure depuis 2 heures, c'est stressant, c'est angoissant, et c'est vrai qu'ils peuvent consulter pour ça. Et pour nous, ça peut être rien. Mais ces parents-là, ils ont besoin d'être vus et d'être reçus, quelle que soit l'heure de la journée, de la nuit. Donc, si ça sert à éviter d'autres choses, c'est très important. C'est notre rôle aussi. On ne prodigue pas que des soins, on prodigue aussi beaucoup de conseils. Et on a peut-être de plus en plus de consultations pour des parents angoissés, probablement parce que la population, elle a changé. C'est-à-dire que il y a quelques années, les enfants vivaient à côté de leurs parents et il y avait ce milieu familial et les grands-parents qui aident, c'est pas qu'ils aident pas maintenant, mais ils sont moins présents pour écouter et tout ça. Et maintenant, avec la distance et tout, c'est plus compliqué. On va pas appeler ses parents s'ils sont à 400 km parce que l'enfant pleure. Les urgences peuvent être là pour ça. Après, c'est pas forcément, enfin, c'est aussi notre place, et comme le rôle du médecin généraliste. Après, c'est vrai que la nuit, on a quand même beaucoup d'enfants qui pleurent, mais la journée, je pense que c'est chez le médecin généraliste.
Vous confirmez, docteur ?
Oui, on en voit beaucoup. Alors après, j'ai pas de chiffre exact, on n'a pas de chiffre de fréquentation dans les cabinets, mais selon les secteurs et selon les patientèles, on en a effectivement énormément. Surtout effectivement chez des jeunes parents où c'est le premier enfant, où le premier 38-2 vient au cabinet parce que c'est gravissime, alors que ça fait une demi-heure que ça dure, le petit bouton également, mais c'est aussi notre rôle de rassurer les patients et leurs parents surtout, parce que pour l'enfant c'est pas souvent très grave, mais pour les parents on a aussi ce rôle là qui est d'écouter, de rassurer, ça fait partie de notre travail.
Des questions ? Ah, on a une gagnante. Je vais vous tenir le micro.
Bonjour, je voulais savoir, c'est pour les enfants, pour les lits parapluies, est-ce qu'il y a des accidents si on rajoute un matelas dans le lit parapluie ? Dans le lit parapluie, excusez-moi.
Non, en fait, il n'y a pas d'accident. Enfin, pas d'accident, on a sûrement eu, mais c'est pas le lit le plus important. En fait, c'est parce que le lit parapluie, il y a deux possibilités. Soit il a un seul matelas tout fin, mais qui est très dur, donc il n'y a pas de risque. Et puis les nouveaux lits parapluies, s'ils sont pas cassés, il n'y a pas de risque. Et puis si on rajoute des matelas dedans, il n'y a qu'un type de matelas qui tient dedans, c'est le matelas rigide normalement, sauf si vous coupez un matelas, vous le bricolez, mais là... Donc, il y a moins de risques, normalement.
Non, c'est pour le savoir, parce que nous, on nous interdit, en tant qu'assistante maternelle, de rajouter un matelas rigide à ressort, donc ils sont rigides, et on nous interdit de le mettre.
Dans le lit parapluie.
Oui, oui.
Alors, pour les assistantes maternelles, normalement, il faut garder le matelas qui est vendu avec le lit parapluie. Faut pas acheter, mais c'est tout fin. Ouais. Après, c'est pas le meilleur des lits, le lit parapluie. C'est un lit d'appoint, c'est...
C'est juste une solution de...
C'est une solution,
hein. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'on met les lits dans la chambre de nos enfants. Mmh. Et quand nos enfants arrivent le soir, il y a des fois, on est obligé d'enlever le lit pour que l'enfant puisse rentrer dans... Mmh. Prendre possession de sa chambre.
Mmh. Et je pense qu'aussi, c'est pour les assistantes maternelles, parce que ça fait partie de mon métier, c'est vrai qu'il faut absolument que le matelas, que si vous le rajoutez, il soit parfaitement de la bonne taille par rapport au lit parapluie. Il faut absolument pas d'espace libre, donc il faut qu'il rentre vraiment pile poil, quoi. Donc oui, c'est compliqué.
C'est bien ça, mais disons qu'ils ne s'occupent pas, ils nous l'interdisent carrément.
Oui, je pense que c'est la meilleure des solutions, parce que c'est des situations un peu compliquées et difficiles.
Merci. Des questions ? Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le 15, parce que c'est un numéro qu'on... Enfin, moi, je vais prendre mon cas personnel. J'espère qu'il y en a des personnes vont me rejoindre. Moi, c'est un numéro qui me fait un peu peur parce que je me dis, je vais pas appeler pour appeler, quoi. On cherche toujours l'urgence et on a du mal parfois à bien savoir quand est-ce qu'on peut appeler ce numéro de téléphone. C'est un ressenti, les gens vous le disent ça souvent ?
Oui, c'est vrai. Mais vous pouvez faire le 15 tout le temps. Au bout du fil, vous avez donc un médecin généraliste également la nuit, parce que effectivement, vous savez que depuis une dizaine d'années maintenant, il y a plus de médecins. La nuit, il n'y a plus de garde de médecins, sauf la maison médicale qui arrête à minuit. Au-delà de minuit, on a mal, on est un peu démuni, on ne sait plus quoi faire. Donc, si vous faites le 15, vous avez deux médecins à votre disposition. Le médecin régulateur qui, normalement, lui, il est là pour réguler les appels du 15, donc des urgences vitales. Mais vous avez également un médecin généraliste qui est avec nous au SAMU, qui peut également répondre à la petite bobologie qu'on appelle nous entre nous bobologie, et qui peut vous donner des conseils. C'est pareil, le médecin régulateur du 15, même lui, il peut vous donner un conseil. Donc n'hésitez pas à appeler, au contraire. Vous engorgez moins les urgences par ce biais-là. Si vous venez parce que vous êtes inquiet, alors que vous auriez pu juste prendre le téléphone, faire le 15 et avoir un médecin au bout du fil, c'est peut-être mieux que de vous déplacer. Donc non, faites-le, n'hésitez pas.
Voilà, ça sera un des messages de ce soir. Est-ce que vous avez des questions ? Tout est bon pour vous. Hop, j'arrive.
Vous parlez très peu du 112. Et parfois, il y a une confusion entre le 112 oui. et le 15 vous, et les autres numéros.
Vous avez raison, monsieur. Effectivement, le 112, c'est le numéro européen qui, ça dépend où vous vous trouvez en France, c'est, ça dépend des départements. Le 112 à Poitiers, dans la Vienne, il tombe au SAMU, c'est le 15. Si vous allez, je ne sais pas quel exemple, il y a d'autres départements où ça tombe chez les pompiers. Mais c'est le numéro européen. Donc si vous avez oublié le 15, faites le 112, c'est pas important. Donc on vous l'a dit, hein, si vous avez retenu un numéro, que ce soit le 18, le 15, le 112 ou même le 17, on travaille en interactivité, c'est-à-dire qu'ils nous passent les appels. Donc vous inquiétez pas.
Oui, il n'y a pas de perte de temps tout,
non,
tout
du tout. Alors, ce qui peut un peu vous embêter quand c'est urgent, quand vous faites le 18, vous tombez sur un opérateur qui est l'équivalent de notre assistant de régulation médicale, qui lui va également vous prendre vos coordonnées, prendre le motif d'appel, etc. Et si c'est un motif médical, il va rebasculer l'appel sur le 15. Là, vous retombez sur l'assistant de régulation médicale. Ensuite, le médecin. Quand vous êtes pressé, vous avez l'impression qu'il y a eu beaucoup d'intermédiaires. Donc, si vous voulez diminuer ce nombre d'intermédiaires, faites le 15 directement. Vous aurez deux personnes au lieu de trois.
Voilà. Mais parce qu'il y a une gestion aussi du stress de la personne qui appelle.
Eh bien oui, important. Complètement. Alors nous, c'est vrai qu'on vient en troisième position. Et quand ils sont énervés, c'est nous qui recevons le tout. Enfin, c'est le médecin qui reçoit.
Et ça, ça arrive souvent, j'imagine. D'autres questions ? Vous êtes sage ce soir ? Ah, ah. Merci, je vous donnerai une petite pièce.
Concernant les numéros, est-ce qu'avec un portable, le 15 ou le 112, on peut appeler de partout ? Bon, je fais du vélo, j'ai un portable qui ne me sert pas en permanence, mais je l'en porte toujours avec moi. Et si je me casse la figure, ça va être dans un endroit. Alors, est-ce que ça passe ? Est-ce que...
Alors ça, après, ça dépendra du réseau et ça dépend de votre opérateur.
Et donc même si le portable reste...
Le 15...
Est-ce que, en fait, pour résumer, effectivement, est-ce qu'il y a pas, ces numéros-là, le 15, 17 et tout ça, ne sont pas des numéros un peu d'alerte qui passent au-delà de tout et qui seraient des trucs prioritaires ?
Non,
de numéro...
non. Voilà. Non, il faut vraiment avoir le réseau de l'opérateur.
Donc du vélo en ville.
Ce qu'on n'a pas dit là sur le film, le décrocher du défibrillateur, il y a des gens qui ont fait ça. Quand on décroche le défibrillateur, ça met une alerte au niveau du SAMU. Donc il y a un téléphone qui se déclenche. C'est pas fait partout, mais ça existe de plus en plus. Donc là, à ce moment-là, vous n'avez même pas besoin finalement de faire le 15. Ça marche pas tout le temps, donc faites-le quand même. Mais le fait d'enlever le défibrillateur de son emplacement, ça peut déclencher une alarme au centre 15. Enfin, le centre 15, on l'a appelé avant de commencer à masser.
Et le défibrillateur, je vais vous donner la parole juste une seconde. Les défibrillateurs, on les trouve, la liste qu'il y avait tout à l'heure, on les trouve sur Internet, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Je vous ai mis le site Internet, le lien.
Donc vous devez
l'avoir
sur vos papiers.
Sinon, pour ceux qui ont des téléphones portables type smartphone, iPhone, etc., il y a des applications gratuites qui vous permettent de géolocaliser le défibrillateur.
D'accord.
Oui.
Excusez-moi, docteur, je vous ai...
Juste sur les numéros de secours, que peu importe lesquels, 15, 18, 17, 112, simplement quand on n'a plus de forfait, même avec le portable, on peut les appeler, c'est gratuit, oui. Donc ça c'est aussi important.
Après, c'est le numéro d'urgence.
Voilà, tout à fait. Après, la difficulté essentielle quand on appelle avec un portable, c'est la localisation. Donc il faut arriver à se localiser, c'est pas toujours facile. Les technologies avançant, bientôt on pourra vous localiser plus facilement dès qu'on appelle le 15, le 18 avec les portables, on pourra vous localiser. Voilà. Mais bon, c'est pas toujours simple.
Mais moi je pensais qu'avec les numéros de téléphone, quand on faisait le 15, on était géolocalisé automatiquement, comme par la police par exemple.
Je ne sais pas si la police peut nous géolocaliser. C'est compliqué, en tout cas pas en instantané. Après, d'accord, ils peuvent en effet rechercher, mais bon, on ne peut pas retrouver en instantané la localisation de la victime.
D'accord.
Si, juste pour toujours sur le même thème, on a un logiciel, nous, sur notre système informatique de la régulation médicale du 15, un logo de France Télécom. Quand vous appelez avec un fixe, on a la possibilité de cliquer dessus et il y a un nom, une adresse qui apparaît. C'est pour ça que l'assistant de régulation médicale reprécise si vous appelez pour vous-même ou pour le voisin ou pour le passant. Il faut appeler avec un fixe. Mais nous, ce qui nous intéresse en fait, donc on vous embête en fait, on vous donne deux messages différents. Quand vous appelez avec le fixe, ça nous permet de vous localiser, on a l'adresse très rapidement. Mais si vous appelez avec le portable, vous êtes auprès de la victime et nous, souvent, on demande à parler à la victime. Donc, ou alors, si vous avez un téléphone sans fil, c'est encore mieux. Donc, si vous appelez avec le fixe, sans fil, c'est mieux. compliqué ce que je dis.
Non, non. On a compris qu'il fallait garder son sang-froid.
Oui, et surtout, nous, c'est vrai que ce qui est important pour nous, c'est d'entendre ou de parler à la victime. Alors, quand il s'agit d'un problème respiratoire, par exemple, ça nous arrive de demander à ce que la victime prenne le téléphone. Même si elle n'arrive pas à parler, le fait de l'entendre respirer, ça nous donne une idée. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande souvent d'appeler auprès du patient et de nous le passer quand c'est possible.
Oui, j'arrive. Tout d'abord, merci pour les interventions. Moi, j'avais une question par rapport à comment expliquez-vous en fait le fait qu'il y ait un tel fossé entre, par exemple, l'état du Nevada, où il y a un taux de survie de 74%, et par exemple, en Île-de-France, où là, cette fois-ci, il y a un taux de survie de 7%. Comment vous expliquez?
Pas en Île-de-France, hein, chez nous, dans la Vienne. Non, en Île-de-France, c'est 3%. Vous n'avez pas vu le... D'accord. Oui, c'est 3%. Alors, ça, c'est question de culture, j'allais dire. Les États-Unis, ils apprennent à porter secours très, très petits, très jeunes. Nous, ça commence en France avec le programme Apprendre à porter secours qui a été élaboré par l'Éducation nationale. Ça commence à apparaître dans les écoles. Mais on en est encore très loin par rapport aux États-Unis. Voilà.
Ça va même plus loin. Aux États-Unis, les enfants, ça fait partie de leur diplôme. C'est-à-dire que si, comme nous, on a le bac et tout ça, l'école primaire, enfin leur niveau d'école primaire, parce que le niveau d'école primaire, ça finit à 9 ans. En fait, les enfants, s'ils n'ont pas leur diplôme de secours, ne peuvent pas changer de niveau. C'est comme si nous, on les obligeait et tout ça. C'est pour ça qu'un enfant, il est capable d'entendre plein de choses et de faire plein de choses. Non, mais il faut leur expliquer avant. C'est pour ça qu'il faut, en tant que parents, grands-parents, vous pouvez jouer à ce jeu-là. Dans la voiture, c'est super sympa. Vous leur dites, et si tu appelais pour ça? Et il appelle, il joue. En fait, c'est comme un jeu. Donc, essayez, vous verrez.
Enfin, en fictif, hein, il n'appelle pas le 15 dans la voiture. Hein. D'accord.
Ouais, des fois, je comprends mieux, en fait, pourquoi on a des appels. Oui, c'est les tiens, en fait.
Tout s'explique. Ah oui, vous dites aux enfants, allez aux urgences pour faire une répétition, d'accord.
Et après, au collège, ils sont un peu plus grands et là, ils sont capables de tout faire. Et l'Académie de Poitiers, ils ont quand même délivré 38%. Enfin, il y a 38% de collégiens qui sortent avec le PSC1. C'est pas trop mal. Plus ce qui se fait par la Croix-Rouge, les sapeurs-pompiers, etc. Là, par contre, j'ai pas de chiffres.
Oui, bien sûr. Justement, par rapport à la gestion du stress, est-ce que ça aussi, il y a quelque chose, il y a un apprentissage par rapport à ça? Parce que la gestion du stress face à une victime aussi, c'est quelque chose d'important. Donc, avoir les gestes de premier secours, bien sûr, mais après, c'est vraiment l'état de stress.
Alors, vous vous rappelez le film, c'est bien illustré, justement. On voit la dame, la Catherine, qui, au départ, ne sachant pas faire les gestes, elle est complètement paniquée. Une fois qu'elle sait les faire, elle est plus calme, elle est plus sereine, elle commence à se déshabiller, se mettre en action pour pouvoir faire les gestes. Je pense qu'effectivement, quand on sait faire les gestes, c'est plus facile. Après, vous n'êtes pas seul. Encore une fois, si vous faites le 15, vous avez un médecin qui peut vous rassurer, qui peut vous guider. Voilà.
Je fais du sport.
Moi, j'avais une petite question sur la pédiatrie, en fait. Je voulais savoir, le petit, en fait, qui a ingéré la cacahuète, vous avez dit qu'il devait rester assis. Jusqu'à, en fait, qu'il arrive jusqu'aux urgences, est-ce qu'il peut se mobiliser? Est-ce qu'il peut marcher? Est-ce que vous pouvez...
Non.
Vraiment, on doit le tenir dans une position où il ne bouge plus et voilà.
Ouais, non, s'il est conscient, il doit rester assis et tousser, mais assis. Et c'est-à-dire qu'il ne doit pas marcher, vous devez le porter et contre vous. Après, un enfant, il s'y tient assis. Bon, les plus petits, c'est un peu plus compliqué. Mais un enfant, il se met dans la position qui l'aide. On a même des enfants qui se mettent... La meilleure position, c'est la position en trépied. C'est-à-dire que c'est assis, les mains en avant. Et l'enfant, il le fait tout seul, naturellement. Donc, s'il est gêné, il va se tenir assis. C'est le parent qui a envie de le coucher, en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire. En fait, il faut toujours respecter la position de l'enfant. Même chez nous, quand il arrivera, on le mettra assis. Et s'il ne tient pas assis, on assoira les parents sur les brancards et on le met assis dans les bras des parents. Et nous, on peut examiner les patients comme ça, ça ne nous gêne pas. Mais c'est vraiment tout le temps assis. Et c'est pour ça qu'il faut le mettre dans les sièges auto, parce que les sièges auto sont tous en position assise. Et pas dans les bras des parents. Non, vous le portez. Il faut toujours le porter.
Après, quand il est plus grand, c'est compliqué. Mais en général, il est pas très bien. Donc, il a pas envie de se sauver et de courir partout. S'il court partout, c'est que normalement, il est plutôt très, très bien et il est pas gêné pour respirer, quoi.
L'idéal, c'est dans une ambulance. Appelez le 15 et puis on vous enverra une ambulance où on viendra, même si ça nous stresse nous aussi, quand on a ce motif-là. On viendra et il faut surtout, à mon avis, éviter en effet de le mettre dans la voiture et de conduire et de pas le voir. Là, je pense qu'il faut qu'il soit surveillé avec des professionnels. Donc une ambulance, ça, c'est justifié, quoi.
Une question ?
Même si ça nous arrive de vous laisser le ramener, parce que soit on sait que les délais sont longs, l'ambulance, etc. Donc c'est vrai, effectivement, le premier truc à faire, c'est l'ambulance. Mais ça nous arrive de demander à ce que vous soyez deux dans la voiture. Parce que si vous êtes en train de conduire, que vous avez l'enfant qui n'est pas bien, vous allez stresser davantage.
Moi, j'avais une question. J'ai une maladie rare. Donc on a des listes de symptômes où on va chez le médecin généraliste où on appelle le 15. Quand on appelle le 15, je me demande si c'est vraiment utile. Parce que systématiquement, vous nous envoyez une ambulance ou aux urgences. Et je voulais savoir, quand on a le régulateur, est-ce que le régulateur, il a notre dossier, en fait, quand il est du CHU ou pas ? Parce que ça pourrait être utile dans certains cas.
Alors, oui. Si vous êtes suivi au CHU, on a la possibilité d'accéder à votre dossier médical. Après, si on est suivi sur un autre hôpital, une clinique ou Châtellerault, là, on n'a pas forcément accès, malheureusement. Alors après, en effet, souvent, c'est ce qu'on a dit, le médecin a quand même généraliste à son rôle dans l'urgence. C'est sûr qu'il y a certaines horaires où des fois c'est parfois difficile.
En fait. Enfin, dans certaines maladies, on a des listes de symptômes. En fonction du symptôme, c'est d'un côté ou de l'autre.
D'accord.
On sait.
Alors après, peut-être que des fois sur certaines pathologies rares, on n'est pas toujours non plus, on ne connaît pas toujours, on ne connaît pas tout. Hein. Donc il y a certaines choses, parfois le patient nous aide et nous dit en effet comment il faut faire.
Et puis, je pense que votre médecin généraliste vous connaîtra beaucoup mieux que nous.
La question, c'est est-ce qu'on peut sauter le 15 et aller aux urgences quand on a les symptômes qui sont... Est-ce qu'on nous dit, vous appelez le 15, mais systématiquement, le 15 vous envoie l'ambulance.
Alors ça, je pense que c'est quand vous essayez d'appeler votre médecin traitant, vous tombez sur un répondeur qui vous dit d'appeler le 15, quand vous ne tombez pas sur lui, c'est
non,
ça ?
C'est le médecin spécialiste qui a notre liste, dans notre liste d'urgence.
Ah oui, d'accord. Non, en fait, encore une fois, si votre médecin est là, et je pense que Arnaud va répondre, si votre médecin est là, lui, il vous connaît mieux que nous, ça c'est sûr. Maintenant, s'il n'est pas là et que vous présentez certains symptômes, effectivement, en passant par le 15, vous aurez les secours les plus appropriés. C'est-à-dire, s'il faut une ambulance, vous l'aurez. Je te laisse répondre.
Oui, je suis relativement d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que le médecin généraliste, même quand on a les maladies rares, la première fois, c'est vrai qu'on est un petit peu démuni, mais après, on se renseigne un peu pour avoir l'air moins bête la deuxième fois. Puis en général, vous nous expliquez bien en fait, les tenants et les aboutissants de votre maladie. Donc effectivement, c'est en général le plus à même de savoir ce qu'il faut faire. Après, pour certaines pathologies, certaines maladies, effectivement, il y a des signes d'alerte où on demande aux patients d'avoir recours à l'usage hospitalier. Parce qu'on sait qu'en ville, on ne pourra pas vous soigner. Si c'est quelque chose que vous avez vraiment l'habitude, c'est vrai qu'on aura tendance à vous orienter sur les urgences. Hein. Je suis d'accord. Mais c'est quand même privilégié l'usage du 15, parce que des fois, vous connaissez sûrement très bien votre maladie, mais dans certains cas, c'est l'entourage, il y a un doute, on ne sait pas trop. Et avoir l'avis médical est parfois très utile.
Une autre question. Noël peut arriver. J'aurais fait du sport aujourd'hui.
Est-ce qu'il est judicieux de placer son ordonnance lorsqu'on est sous médicament dans son portefeuille ou à quel endroit ? Est-ce que vous faites les poches, entre guillemets ?
Alors, si je puis apporter une précision par rapport à votre question. Effectivement, est-ce que sur soi, on doit avoir des documents médicaux en cas où, et quand on appelle le 15, par exemple, est-ce que vous demandez des noms de médicaments que pourrait prendre la victime, des choses comme ça ? Est-ce qu'il faut avoir quelque part, je dirais, un petit dossier pas loin, toujours à portée de main quand on est avec une personne un peu âgée ou avec des enfants ?
Alors, effectivement, c'est toujours utile d'avoir l'ordonnance pas très loin, donc dans votre portefeuille, pourquoi pas ?
J'ai vu qu'il y a un monsieur qui est bien averti. Quand on se déplace au domicile des patients, nous, on prend l'ordonnance. On demande s'il y a un dossier, effectivement, qui est là. Ça nous permet de suivre. Ce qu'on demande, entre autres, l'électrocardiogramme. Donc, pour ceux qui sont suivis chez le cardiologue, on aime bien avoir un électrocardiogramme. Ça nous permet de voir si l'électrocardiogramme est changé par rapport à celui qu'on fait, nous, ou celui qui était là antérieure. Par téléphone, oui, ça nous arrive de vous poser la question si vous prenez des médicaments et pourquoi vous les prenez. C'est pas forcément le nom du médicament qui nous importe, c'est surtout est-ce que vous savez pourquoi vous les prenez. Si vous ne savez pas, on vous demande qu'est-ce que vous prenez comme médicament et nous on déduit après quelle est votre maladie. Tu veux rajouter quelque chose, Jean-Yves ?
Oui, ça nous arrive de faire les poches, hein. Mais voilà, on essaie, voilà. Par contre, c'est sûr que voilà, l'ordonnance pour nous c'est quelque chose d'important et ça nous permet quand même d'avoir un certain nombre de renseignements et ça nous permet également de, par exemple, quelqu'un qui s'est cogné la tête et qui est un anticoagulant, ben ça change complètement notre prise en charge et ça c'est quelque chose de vraiment vraiment important.
Il existe aussi des possibilités de mettre pour certaines maladies, je pense les épileptiques et les diabétiques, c'est pour les enfants mais c'est aussi pour les adultes, d'avoir un bracelet au niveau du poignet où c'est écrit, alors ça peut être écrit à l'intérieur, c'est des petits bracelets qui peuvent être très jolis et ça peut être intéressant parce que si par exemple l'enfant il est en vacances ou enfin nous moi je parle pour les enfants mais il est en vacances ou alors il est chez les grands-parents, ils savent pas trop, enfin ils savent qu'ils prennent un médicament, ils ne savent pas trop ce qu'il a, ça nous permet nous de savoir exactement quel type de pathologie il peut avoir. Alors c'est pas pour tout mais pour les enfants c'est surtout les épilepsies et le diabète.
De rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que l'électrocardiogramme, souvent, quand vous avez vu le cardiologue, vous avez fait l'examen chez lui, c'est souvent donné au médecin traitant. N'hésitez pas à demander une copie de votre électrocardiogramme pour l'avoir avec vous. C'est rarement le cas et c'est quand même très utile pour les urgentistes, même pour le médecin généraliste, des fois, quand vous en consultez un autre, parce qu'une modification de votre tracé électrique peut orienter sur la prise en charge et nous aider à savoir un petit peu ce que vous avez. Et puis, deuxième chose, c'est pas encore très généralisé, ça commence juste. Il y a le dossier médical partagé qui est en train d'être créé. Donc, c'est quelque chose que vous faites avec votre carte vitale qui permet de créer un dossier Internet avec des informations médicales, des comptes rendus, voilà, que vous pouvez faire avec les spécialistes, mais aussi avec votre médecin généraliste. Ça commence juste à être créé et ça permet en fait à n'importe quel médecin en France, moyennant qu'on ait votre carte vitale, d'accéder à ce dossier-là pour pouvoir avoir accès à vos informations, aux informations que vous aurez décidé de mettre dessus. Voilà.
Oui, ben, ça tombe justement sur moi en permanence. Je suis sous AVEKA, donc j'ai une carte. Et j'ai également une clé USB depuis 5 ou 6 ans, où j'ai tous mes renseignements. Alors on va vous dire, c'est personnel, ben oui, mais enfin en cas de pépin, je pense que ça peut aider. Donc j'ai toujours ça...
C'est tout bon ? Eh bien, merci à nos intervenants. Je pense que vous pouvez les applaudir parce qu'ils ont été clairs et on a appris plein de choses. Pour résumer, le 15, les gestes, pression et puis défibrillateur, s'il y en a, et il y en a de plus en plus.
Ah oui, juste une chose. En général, les défibrillateurs, ils sont dans les mairies et aux abords des structures sportives, gymnase, stade. C'est là où ils sont implantés de manière... voilà, et celle des fêtes. En général, ne sont pas très loin des gymnases.
Parfait. C'était la 100e édition de ce Pôle Info Santé. Je vais en profiter pour remercier toute l'équipe du CHU, Stéphane, Zoé et Vanessa, en souhaitant bon vent à Vanessa qui nous quitte. Zoé qui nous quitte, pardon, Vanessa reste avec nous. Merci Zoé pour tout ce travail. On va remercier Christine également pour l'Espace Mendès France, toute l'équipe technique. On va remercier aussi vous, public, évidemment, d'être fidèle et de venir régulièrement. Il y en a que je reconnais... systématiquement à chaque fois. Pensez bien à remplir votre formulaire d'évaluation, vous allez le remettre, il est très important pour nous. Et puis on va se retrouver l'année prochaine avec différents thèmes, il y aura 4 rendez-vous pour l'info santé dans la saison, dans l'année 2014, avec différents sujets aussi divers et variés que l'incontinence ou les AVC, Et on se donne avec le premier rendez-vous le 6 février, qui sera consacré au cancer ORL, dépistage et prise en charge. Je vous souhaite une belle soirée et de bonnes fêtes de fin d'année. Merci.